Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon associé Jérôme. On a parlé de l'importance des protéines. Podcast très intéressant. Comment on a divisé le podcast aujourd'hui? Premièrement, Jérôme a parlé de à quoi servent les protéines, quelles sont les principales sources des protéines. De mon côté, j'ai parlé de quel est l'apport recommandé de Santé Canada versus quel est l'apport recommandé selon les études les plus récentes. Et par la suite, j'ai parlé de l'effet thermogénique des protéines, donc le TIF en anglais, et à quel point ça peut faire une différence sur un processus. Jérôme a donné une histoire, ou du moins un exemple d'histoire d'une cliente que j'ai eue qui fait de la fibromyalgie, a donné des exemples sur les protéines. Et finalement, j'ai démystifié différents mythes sur les protéines qu'on entend toujours. Donc, bonne écoute à toi!
Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie.
Alright, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon associé Jérôme, comme pas mal tous les podcasts jusqu'à maintenant. Puis aujourd'hui, on va parler des protéines, de l'importance des protéines, qu'est-ce que ça fait. T'sais, on entend tout le temps parler des calories, mais maintenant, c'est plus complexe que juste des calories. Il y a aussi des macronutriments. On parlera pas de tous les macronutriments, on va principalement parler des protéines parce que c'est le macronutriment, je dirais, le plus essentiel qui existe. Donc, en partant, très simple, Jay, pars avec ça. À quoi ça sert des protéines? De où que ça vient le mot Tu veux aussi parler des sources de protéines? Explique-moi ça un petit peu.
En fait, souvent, les personnes, quand ils viennent nous voir, ils pensent comprendre les protéines. Puis tu sais, tu leur demandes qu'est-ce que ça fait des protéines? À quoi ça sert une protéine? Ben, ça nourrit le muscle. OK, t'as pas tort, mais il y a tellement un écosystème plus complexe que ça autour des protéines.
Ça protéinise.
C'est ça. Puis ça donne de l'énergie. Fait que tu sais, oui, c'est un macronutriment, donc ça donne de l'énergie. Et oui, ça va aider à nourrir, entre guillemets, j'ai fait des gros guillemets, les muscles, mais c'est beaucoup plus complexe. Les protéines en tant que telles viennent du mot « protéos », qui veut dire « de première importance ». C'est le premier élément vital à l'être humain. Les protéines sont un essentiel. Pour quelle raison? Parce que littéralement, la totalité des choses dans votre corps qui se crée, construit et répare est faite à base de protéines. C'est vraiment, vraiment important de bien le comprendre, mais les cheveux, la peau, les os, les tendons, les ligaments, les muscles, le système immunitaire, le système nerveux, le système sanguin, toutes les affaires qui se créent dans votre corps, c'est des protéines. Fait que c'est un peu comme si je te disais, dans la pièce ici, Sam de podcast, là, le mur, c'est des protéines, le plancher, c'est des protéines, le bout de bois, là, c'est des protéines, la plante, c'est des protéines, tout est protéines. Et si tu veux réussir à construire quelque chose de plus gros, avoir un nouveau mur ou quoi que ce soit, l'élément qui va te permettre de construire ça, c'est pas des glucides, c'est pas des lipides, c'est des protéines. T'as beau manger plein de calories en glucides et en lipides, si tu es en carence de protéines, tu seras pas capable de créer un mur parce que c'est l'élément premier de création, construction et réparation. C'est ça en tant que tel la fonction de la protéine. Il y a plusieurs gros aspects positifs du pourquoi on voudrait introduire plus de protéines dans une alimentation. Et en général, c'est la première chose qu'on va faire, réguler le niveau de protéines chez les gens en nutrithérapie. Parce que tantôt, je raconterai un peu l'histoire d'une de mes clientes que j'avais déjà citée, je crois, dans un ancien podcast. Mais tu sais, en tant que tel, les protéines, ce qui est très intéressant au niveau de l'aspect nutritionnel et alimentaire à introduire dans un mode de vie équilibré, c'est le fait que les protéines ont un effet de satiété beaucoup plus grand que les glucides et les lipides. On appelle ça, dans le fond, l'assimilation et le potentiel d'assimilation de l'aliment. Et si on regarde en tant que tel, certaines molécules de protéines, en raison de leur chaîne d'acides aminés et toute la kit, vont prendre des fois jusqu'à 6, 8, 10 heures de digestion. Tu sais, si on prend, mettons, un poisson blanc, Sam, je te pose la question, combien de temps, selon toi, ça prend pour démoléculariser et assimiler un poisson blanc?
C'est assez rapide. Là.
Très rapide. On parle de, probablement, dépendamment du type de digestion de la personne, entre 30 minutes et 2 heures, gros maximum. Fait que tu sais, tu manges un poisson blanc, et ça passe dans le blender, puis 2 heures plus tard, tu n'as plus rien là, dans le ventre. Puis la protéine est biodisponible. Si tu prends un shake de protéines, selon toi, parce que c'est sous forme liquide, combien de temps
très
environ?
Rapide, encore une fois.
Ça doit être un 30 minutes à peu près, puis après ça, la protéine
dépend
est
bio. Laquelle?
Ça dépend laquelle, encore
une
fois.
La caséine, mettons, ça va être plus long.
Exactement. Si tu prends un yogourt, combien de temps d'assimilation, selon toi, ça peut avoir?
Plus long.
Parce que c'est une chaîne d'acides aminés très, très, très complexe et la molécule va rester dans l'estomac pendant très longtemps. Donc, la protéine, exemple d'un shake de protéines, de la protéine de petit lait, la isolate comme on voit régulièrement, cette protéine-là, tu prends un shake, 30 minutes après, tu as faim. Ça n'amène pas le côté satiété. Tu prends par contre un yogourt à la place de prendre cette protéine-là. Même valeur, on va dire, en termes de calories et de protéines. Mais le yogourt va te soutenir pendant près de 4 à 6 heures. Parce que la démolécularisation de la molécule, démolécularisation de la molécule du produit laitier est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile sur le système digestif. Et tu vas avoir un sentiment repu de satiété beaucoup plus grand. Fait que les protéines ont tendance à amener ce côté de satiété-là beaucoup plus que les autres macronutriments. Combien de temps de digestion une patate prend environ pour un glucide?
C'est plus long. Si c'est une patate douce, c'est plus long. Si c'est une patate blanche, c'est plus vite.
On parle de peut-être un 2 heures à peu près. Fait que tu sais, 2 heures versus un yogourt qui peut prendre 6-8 heures, c'est sûr que le yogourt va te soutenir longtemps. Fait qu'on est capable, dans l'alimentation, de faire en sorte que les personnes n'ont aucune rage alimentaire, se sentent toujours pleins, même en étant dans un processus de perte de poids et qu'il y a, on va dire, une restriction calorique derrière ça. Parce que le fait que si on fait juste manger des glucides, la molécule va rester biodisponible dans le corps pendant 2 heures et ensuite, de ça, on se retrouve dans un état où on a faim, mais il est rendu 9 heures. Tu viens de déjeuner à 7 heures. Fait que là, t'arrives, t'as envie de manger les coins de mur, puis là, t'attends, puis t'es toujours dans un état de faim. Versus si tu fais juste te prendre un yogourt grec le matin, t'es rendu à midi, t'as encore pas faim, puis t'es capable de passer à l'autre repas sans avoir tout le temps l'envie de faim, mais t'es en train de perdre du poids parce que t'es en déficit. Fait que les protéines, c'est, ce côté de satiété-là est super intéressant, et en général, les personnes, dès qu'on commence un mode de vie et qu'on leur introduit plus de protéines, ils me disent tout le temps, hey, j'en reviens pas, je mange plus qu'avant, puis je perds du poids en fou. Mais c'est parce qu'ils ont plus, on va dire, ils ont moins de calories, mais ils ont plus de démolécularisation à faire et les molécules qu'on a choisies sont plus intéressantes pour amener ce sentiment de satiété-là.
Je sais plus ce que j'allais dire.
T'allais dire de quoi?
Ah non, c'est ça, parce que tu parlais de satiété et j'allais faire un lien sur les protéines ont été prouvées qui sont, pour le fait d'être rassasié, autant au niveau digestif, donc ce que tu ressens au niveau de ton ventre, mettons, là, que tu te sens plein, et aussi au niveau psychologique, fait que t'as moins faim au niveau, les deux. Fait que c'est rassasiant à tous les niveaux. Puis, tu sais, il y a les protéines, puis je dirais même les fibres, parce qu'au début, c'est pas parler des fibres, là, mais les fibres vont avoir un effet, ou les protéines, je dirais, vont avoir un effet autant rassasiant que des fibres.
Ouais, absolument.
Fait que tu sais, tantôt, quand tu parlais, mettons, de la patate, à quel point ça se digère vite ou pas, si, mettons, tu prends une patate blanche qui a moins de fibres, par exemple, qu'une patate douce, bien, la patate douce va être plus longue à digérer, tu vas avoir un effet de satiété aussi qui va être meilleur parce qu'il y a plus de fibres.
Puis la satiété, parce qu'on met un point là-dessus, c'est un aspect extrêmement important qui va faire en sorte que vous allez réussir ou pas votre objectif. Fait que d'augmenter votre quantité de protéines dans vos repas, est un indispensable pour la perte de poids, selon moi, et de ce que j'ai pu voir dans ma pratique de 3000 clients et plus. C'est une personne qui mange très, on va s'entendre, le macronutriment entre les protéines, glucides et lipides qui amène le moins le sentiment de satiété et qui donne le plus régulièrement faim rapidement, c'est quoi?
Ça dépend. Je te dirais les glucides rapides, mais des glucides à index glycémique qui sont plus lents, bourrés de fibres, c'est le contraire.
Ouais. Ça va te bourrer. Si tu manges, mettons, une patate douce, ça va te saturer. Mais c'est rare que le monde, en général, qui ont besoin d'un mode de vie de perte de poids, vont manger de la patate douce.
Puis gérer le sucre, mettons, sur
c'est
les
ramènes. Ouais. C'est les fruits, le sucre, etc. Tu manges ça, tu as faim 3 secondes après, ça vient juste de t'activer. Qui a déjà mangé une pomme? Et que littéralement, il pensait se soutenir avec une pomme, mais après ça, le ventre a commencé à... C'est un blender, là. Ça te grogne dans le ventre, puis tu as juste envie de manger tout le reste. Fait que, tu sais, ça, c'est des points vraiment quand même assez importants. Fait que les protéines créent, construisent et répartent dans votre corps et amènent un sentiment de satiété plus ou plus probable que tous les autres macronutriments. Ça fournit 4 calories par gramme et en soi, il y a un petit concept qu'on va pouvoir parler en détail plus dans un autre podcast. Je vais juste en glisser un mot. Mais les protéines, la différence entre les protéines végétales et animales. Puis ça, c'est un point qu'on entend régulièrement parce que, veux pas, dans le monde qu'on vit actuellement, parce que ça fait depuis des dizaines de milliers d'années qu'on est des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. On pêche le poisson, on tue l'oiseau, on chasse le bison, on dépece le bison, on mange le bison. Fait que la viande a toujours été parmi nous. Et si on regarde en tant que tel, là, de nos jours, on commence à prôner de plus en plus des modes de vie vegan. On a vu que les marqueurs inflammatoires chez les personnes qui mangeaient moins certains types de viande, y avaient diminué. Fait qu'on voyait que les personnes, c'était très sain pour leur santé. Mais là, est-ce que les études avaient été faites sur des viandes biologiques ou des viandes de supermarché avec des antibiotiques pis tout? Ça, c'est des points que je suis pas conscient au niveau des études. Mais chose certaine, moi, je suis un fervent croyant qu'on doit manger de la viande pour réussir à tout combler les besoins de la machine humaine et être optimal. Et si on regarde en tant que tel la différence, parce que je me le fais souvent poser, la différence entre les protéines végétales et les protéines animales, parce que toute personne qui commence un mode de vie, on va dire, à couper les viandes et commencer à augmenter les soya, toutes les protéines végétales, soya, les légumineuses, etc., se retrouve confronté à un problème. C'est qu'ils entendent, ce n'est pas des protéines complètes. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas des protéines complètes? C'est là qu'on en vient avec un sujet qui s'appelle les acides aminés. Une protéine en soi, c'est quoi? C'est simple. C'est un ensemble de 20 acides aminés. Il existe, dans le fond, dans la hiérarchie, dans la nomenclature des acides aminés, des protéines, 9 acides aminés qui sont essentiels. Et qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Ça signifie que le corps humain ne peut pas le synthétiser et doit les obtenir à l'aide de l'alimentation. Ça veut dire qu'on ne peut pas en produire naturellement si on est en carence et qu'on ne les consomme pas. Et il existe 11 acides aminés non essentiels que l'être humain, que le corps est capable de produire par lui-même sans nécessairement avoir besoin de nourriture. Ce qui veut dire que les 11, on va les retrouver dans le règne végétal très facilement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on mange un œuf, c'est une source de protéines considérablement bonne, de gras aussi, mais de protéines. Et si on regarde un œuf, c'est une protéine parfaite. Pourquoi est-ce que j'appelle ça une protéine parfaite? Parce que l'œuf contient la chaîne totale de tous les acides aminés. Un œuf peut donner la vie. Et pour être capable de créer une vie de toute pièce à l'aide d'un embryon, il faut que tu aies une protéine parfaite, tous les acides aminés à l'intérieur. Donc, lorsqu'on consomme des œufs, et c'est souvent ce que je recommande chez les personnes qui veulent couper la viande, maintenir les œufs, on se retrouve dans un environnement où on a les 9 acides aminés essentiels et les 11 non essentiels. Et qu'est-ce que c'est des acides aminés essentiels? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça si vous avez fait affaire avec des suppléments sportifs comme des BCA, des EA, etc. Peut-être des acides aminés aussi qui sont isolés comme de la glutamine, etc. Je vous nomme tous les acides aminés non essentiels et essentiels et leurs fonctions. Juste brièvement, on va pouvoir en parler plus en détail dans un autre podcast. On embarquera dedans les suppléments sportifs et tout, ou les suppléments de santé.
Tantôt, je vais parler vite, je veux, parce que tu vas parler de la leucine. Là.
Ouais.
Je vais en parler tantôt plus précisément
parfait.
Là-dessus.
Parfait. Je passe à travers ça, puis après ça, si tu veux parler de la leucine direct. Donc, les 9 acides aminés essentiels qu'on doit synthétiser à partir de l'alimentation, l'histidine, qui fait la croissance et la réparation des tissus et la production de globules blancs et rouges. On s'entend que ça a quand même une bonne importance. L'isoleucine, elle est cruciale pour l'endurance musculaire et la récupération. La leucine joue un rôle clé dans la synthèse des protéines musculaires. T'expliqueras ça tantôt. La lysine, nécessaire pour la production de collagène et d'enzymes. On s'entend, tout ce qui vous permet de digérer et la qualité de votre peau, vos cheveux, vos ongles. La méthionine, précieuse pour le métabolisme et la détoxification du foie. La phénylalanine, convertie en tyrosine, utilisée pour produire des neurotransmetteurs. Je suis joyeux, je suis triste, j'aime, et etc. Je suis fâché. La tréonine, impliquée dans la formation du collagène et de l'élastine. Le tryptophane, précurseur de la sérotonine, hormone du bien-être. La valine aide à la réparation des tissus et au maintien de l'équilibre azoté dans le corps. Donc, on s'entend, un corps qui a trop d'azote, principalement, c'est un corps qui s'intoxifie pis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que les 9 essentiels, lorsqu'on s'en va dedans la viande, la nourriture qui est vegan, exemple, on prend du blé, on prend une protéine de blé. Ben le blé, je connais pas les chaînes d'acides aminés précisément dedans, mais peut-être que le blé va contenir de la lysine, de la leucine et de l'isoleucine. Mais les 6 autres acides aminés ne sont pas présentes. Donc, inévitablement, cette protéine-là n'est pas fortement assimilable, voire pas du tout assimilable. Et il faut aller consommer les acides aminés de d'autres aliments. Comme exemple, on va prendre le blé, on va aller le coupler avec des noix de cajou, on va aller chercher ça avec, exemple, on va prendre des graines de chia ou de citrouille, et ensuite de ça, on va aller prendre, exemple, un tofu. Et si on fait la combinaison des 4, on va chercher la protéine complète au niveau des acides aminés essentiels et on se retrouve avec une protéine qui est assimilable. Ce qui fait en sorte que des fois, il y a du monde qui vont arriver en face de nous, qui vont manger considérablement beaucoup de protéines, même vegan. Ils sont vegan à 100%. On embarque dessus la bioimpédance et ils sont drastiquement en perte de masse musculaire. Fait que là, on se pose la question, mais lorsqu'on regarde le potentiel d'assimilation des macronutriments qu'ils consomment, les protéines, les molécules qu'ils prennent sont jamais en synergie l'un avec l'autre et peut-être qu'ils vont atteindre 200% de lysine, 50% de leucine, 20% d'isoleucine, 10% d'histidine, 25% de tréonine. Fait qu'au final, ils n'ont aucune protéine complète parce qu'ils ne sont pas capables de compléter ça dans leur chaîne alimentaire. Et c'est ce qui fait en sorte qu'une personne qui est vegan va avoir de la difficulté à avoir un bel équilibre alimentaire sans connaître les combinaisons alimentaires. Souvenez-vous de ça si votre objectif est de diminuer la viande. Moi, souvent, ce que je vais conseiller pour un beau mode de vie équilibré, c'est si vraiment, vraiment, c'est le côté éthique puis que vraiment, vous ne voulez pas faire de cruauté animale ou quoi que ce soit, ben continuez de prioriser les œufs et des molécules comme ça qui ne créeront pas de dommages à l'environnement ou à l'animal. Mais en soi, le but premier, c'est d'être capable de prioriser des viandes de meilleure qualité. Tu sais, toi et moi, Sam, cette année, on a fait affaire avec une ferme. Et la ferme, dans le fond, nous amène la viande biologique, sans hormones, etc. Tu sais, le bœuf, il s'appelle Jerry. Il est dans le champ depuis 3 ans, puis il est super heureux. Là. Il y a 2 chums, puis il joue au golf chaque fin de semaine. Fait que nous autres, quand on mange cette viande-là, on se sent pas mal. On l'investit plus cher. Sauf qu'au final, on a choisi notre combat. Et selon moi, ce qui est nocif, c'est l'ensemble de tous les produits qu'ils vont mettre dans la vache ou dans le bœuf qui va faire en sorte que le bœuf va être malade sous antibiotiques avec des hormones, avec de l'ARN messager, toutes sortes de molécules à l'intérieur de lui. Fait qu'au final, c'est ces molécules-là qu'on doit essayer d'éviter parce que ça affecte notre code d'ADN et ça affecte notre génétique, notre santé et tout. Fait que...
Oh, vas-y, vas-y.
Fait que c'est ça pour les acides aminés essentiels. Lystidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, tréonine, tryptophan et la valine. Et au niveau des non-essentiels, souvent, c'est ceux-là qu'on va retrouver un petit peu plus sous forme de suppléments alimentaires. Puis, tu sais, on regarde, admettons, la cystéine, l'arginine, l'alanine, la glutamine, la glycine, la tyrosine. Souvent, tous ces acides aminés-là, lorsqu'on prend un supplément, c'est juste pour aller chercher du 200, du 400, du 600% d'eux. Mais en général, une alimentation équilibrée devrait être capable d'aller tout combler ça. Fait que je voulais juste glisser un petit mot là-dessus. On en parlera un petit peu plus en détail au niveau des acides aminés. Mais c'est de comprendre que pour qu'une protéine soit assimilable, il faut qu'elle rejoigne les 20 acides aminés essentiels et non essentiels ensemble. 9 essentiels, 11 non essentiels. Et lorsque vous avez une protéine complète, elle est dite assimilable. Fait que il faut réussir quand même considérablement à combler ça. Donc, en général, lorsqu'on mange de la viande, c'est pas difficile d'aller combler la totalité des essentiels. Si on mange vegan, très difficile.
En fait, c'est pas qu'elle n'est pas assimilable, c'est que tu n'as juste pas la protéine complète
pour faire
toutes les structures que ton corps a besoin de faire.
Exactement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est ça. C'est pas qu'elle ne rentre pas dans ton système et que ton corps ne la perçoit pas et ne la reconnaît pas. C'est le fait... Bonne correction, merci. C'est le fait que c'est comme si tu essayais d'avoir littéralement un carré, mais il te manque 3 bouts, il te manque 3 plateformes. Tu sais, tu peux pas avoir un carré complet tant, en 3D. Tant et aussi longtemps, moi, je vois une image, mais les gens ne le verront pas, mais... Tu ne peux pas avoir une plateforme complète s'il te manque des pièces dedans. Fait que c'est la même affaire avec la protéine. Elle ne peut pas rentrer dans ton corps et être utilisée de la même façon si elle n'est pas complète. C'est quoi les principales sources de protéines? En fait, c'est des choses très, très simples en général, mais la viande, principalement tout ce qui est du muscle. Fait que si on regarde le poulet, la dinde, le porc, le bœuf, les poissons comme le thon, le saumon, le sole, tous les poissons comme... C'est ça, le saumon. Les œufs, les produits laitiers, le fromage cottage, le yogourt, le lait, les fruits de mer, les crevettes, les pétoncles, le crabe, le tofu, le tempeh, le PVT, protéines végétales texturées. On va avoir les protéines en poudre, la protéine de whey, la protéine isolate, la protéine végétale, la protéine de bœuf. Fait qu'il y a plein de différentes sources de protéines. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de lobbying, on va dire, au niveau des protéines. Et les gens se disent tout le temps, « Ah, je mange une barre chocolatée aux protéines avec 2 grammes de protéines dedans, ou 12 grammes, 5 grammes de protéines. » Au final, souvent, ils vont mettre de la très mauvaise qualité de protéines. Encore une fois, pas avec les acides aminés au complet. Donc, elle n'est même pas assimilable. C'est juste un beau gros coup marketing pour faire en sorte que psychologiquement, les personnes se sentent mieux en mangeant des protéines. Fait que faites attention à ça, gang. Vas-y, bon. Je te laisse...
Juste pour parler des protéines, là, avant de passer au point, dans le fond, je veux dire, c'est quoi l'apport recommandé de Santé Canada, mais j'avais une cliente à un moment donné qui, j'avais dit ça dans, probablement dans un live à un moment donné, mais dans le fond, elle était venue me voir, puis elle mangeait, exemple, je faisais un calcul de son journal alimentaire, puis vite de même, je calculais qu'elle mangeait peut-être 20 grammes de protéines dans sa journée, tu sais, 20 grammes, c'est genre 3 œufs, là, okay, dans toute sa journée, ou bien genre 100 grammes de poulet, en termes de pesée sur une balance. C'est vraiment, vraiment focal, mettons,
sur 24 heures, c'est rien.
C'est rien.
C'est, on va dire, admettons, peut-être...
Sur 16 heures, si tu fumes 8 heures de semaine, là.
C'est 10% de ses besoins, peut-être, même,
peut-être même 5%, okay, de, 15% sur le 100%, ouais. Ou en termes d'apport en protéines, glucides, lipides? Parce que c'est même pas 10%. Là, ouais,
c'est si même pas 10%. Là, c'est vrai.
C'est anyway, peu importe, là, mais mettons 20 grammes, c'est vraiment, vraiment rien. Puis, dans le fond, moi, j'ai expliqué justement, elle était comment, ok, c'est intéressant, les protéines, tout le kit, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Puis quand j'ai créé sa stratégie, j'en ai donné peut-être, on va dire 100 grammes. Okay? Si je visais à peu près 1 gramme par livre de masse meg, à 0.7 à 1 gramme par livre de masse meg, puis quand j'y avais fourni sa stratégie, elle était partie avec ça. Puis genre 2-3 semaines après, elle m'avait appelé ou m'avait écrit. Puis elle m'avait dit « Hey, j'ai pas tant suivi, j'ai l'impression que tu m'as fait une diète protéinée. » J'étais comme « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle dit « Ben, je mange juste des protéines. » j'étais comme, non, c'est pas juste des protéines. Je veux dire, ça fait, j'ai fait ça souvent. Là. Je veux dire, je mets 100 grammes de protéines, c'est pas tant que ça. T'sais. Puis il y avait, mettons, 200 grammes de glucides, 100 grammes de lipides. Bon, peu importe.
Il avait un beau mode de vie équilibré. Hein?
Non, c'était super équilibré. Mais le point, c'est qu'elle était tellement habituée de ne pas manger de protéines. Je considère que 20 grammes, vous n'êtes pas d'en manger. Là. Que d'en manger 100. Tu sais, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle en prenne 100 du jour au lendemain. Je savais d'en manger 20. Là. C'est d'y aller progressivement. Sauf que moi, je sais qu'elle en avait besoin de 100. Mm-hmm. Donc, quand j'ai créé sa stratégie, j'irai pas en mettre 40 en disant, ben là, il faut atteindre 40. Je vais mettre 100 dans l'objectif que tu atteignes 100, mais je m'attends pas à ce que tu atteignes 100 tout de suite, puis c'est correct. Mm-hmm. Sauf que là, elle avait l'impression qu'elle mangeait juste des protéines. Parce qu'elle était tellement habituée de ne pas en manger que manger l'apport nécessaire, maintenant, pour elle, c'était comme, ça avait aucun sens. Là. Mais il fallait qu'elle s'habitue à le faire, mais elle l'était juste pas.
Parce que, tu sais, littéralement, l'alimentation typique d'une personne qu'on rencontre ici, qui veut perdre du poids ou qui a des troubles pathologiques, c'est plate à dire, mais que la personne est très inflammée ou qu'il y a plein de facteurs digestifs ou quoi que ce soit, à déjeuner le matin, deux tranches au beurre de pinot avec un grand verre de jus d'orange. Ou des fois, le jus d'orange, il n'est même pas là. Après ça, collation, on va se manger une petite barre tendre au chocolat. Après ça, au dîner, on va se manger un sandwich ou peut-être jambon, puis c'est là, c'est protéines. Sinon, on va manger le restant du pack de la veille. Sinon, on mange une pointe de pizza à cafétéria. Après ça, au dîner, à la collation, elle va se manger, admettons, encore une fois, une petite barre tendre Val Nature ou des choses de même. Souper, elle décide de se manger, admettons, du pâté chinois ou de la lasagne, puis après ça, le soir, elle se mange un peu de chips. C'est typiquement l'alimentation c'est qu'on ça. Voit. Fait qu'au final, là, là-dedans, il y a peut-être 5 % de protéines, 80-90 % de glucides, puis 5 % de lipides, 10 % de lipides. Fait que tu sais, au final, cette personne-là ne mange jamais de protéines, et dès l'instant tu fais juste réguler son ratio, puis tu vas y chercher un 30 % de protéines, tu viens déjà de faire x6 son
nombre. C'est des game changers. Tantôt, tu parlais de satiété. Puis une des raisons principales quand on parle de satiété puis qui est le côté positif dans un objectif de perte de gras, c'est que les personnes mangent tellement beaucoup de d'autres macronutriments que les protéines, donc souvent du sucre. Fait que là, ils ont souvent beaucoup, beaucoup de rage de sucre. Fait que là, tu augmentes. En fait, non. Première affaire, tu diminues un peu le sucre. Et là, évidemment, si tu fais juste de couper le sucre, mais tu ne changes rien, ils vont faim, encore plus faim que ce qu'il y avait. Fait que là, tu augmentes l'apport en protéines. C'est pour ça que c'est une des premières affaires que tu fais dans un processus, parce que les protéines vont venir faire en sorte qu'elle n'aura plus
de rage
alimentaire de sucre. Ça va créer un effet de satiété. Fait que souvent, les premiers symptômes positifs que je vois, mettons, quand ils viennent me voir après un mois, effet positif, c'est ça, c'est j'ai plus de rage. Puis genre, j'ai plus faim. Je suis bien, mettons. Je suis rassasié. C'est les protéines qui vont
Moi, souvent, mes clients vont me dire, je mange plus, puis je perds du poids à côté. Qu'est-ce que c'est ça?
Ben, des fois, ils ont l'impression qu'ils mangent plus,
mais ils
mangent moins, ouais. Ou bien égal.
Ils mangent moins de calories, mais plus de volume.
Plus d'aliments avec qui sont denses en nutriments, dont les protéines, exemple. Tu sais, tu pourrais manger calorie pour calorie, mais au bout de la ligne, si tu manges plus de protéines, tu vas avoir moins faim.
Combien de calories contient deux toasts blancs, pain blanc avec du Nutella à côté dessus? Tu sais, une bonne beurrée de beurre de Nutella.
Seulement une toast, à peu près 90 calories par tranche de pain. Dépendant de quoi ta tranche de pain, mettons 200 si tu fais un chiffron.
Ouais.
Puis ton Nutella, ben, ça dépend si tu
un
mets
bon
ça,
150.
Ça,
fait que si t'en mets ça, mettons, un bon 150 par toast. Fait que tu sais, tu viens de grignoter deux toasts de 100 calories chacun, plus, admettons, deux grosses affaires de Nutella à 150 chacun, ça te fait 300, ça fait 500. 500 calories, deux toasts au Nutella. Combien d'œufs ça prend pour faire 500 calories?
Un œuf, c'est à peu près ça, 90 calories.
Fait que ça en prend combien?
T'en fous beaucoup.
6, 7? Fait que tu te manges 7 œufs. Selon toi, est-ce que tu vas avoir plus de satiété en mangeant 6, 7 œufs?
C'est ça le point, c'est ça que je te dis. Ouais. Fait que là, on fera jamais ça, là, même moi je fais pas ça. Mais mettons qu'exemple, ta cliente était capable de manger 7 œufs, exemple. Elle va te dire, c'est sûr qu'elle va te texter, man, je mange bien trop, ça n'a aucun sens. Au bout de la ligne, elle mange quand même 500 calories. Mettons, on
Exactement.
Fait des chiffrons, mais c'est parce qu'elle est bien plus rassasiée à cause de la protéine.
Puis ta toast avec ton Nutella qui est majoritairement du sucre puis du sucre. Ça va te toffer entre 30 minutes et 1 heure et demie à peu près.
Ouais.
Et ensuite de ça, la molécule, le spike de glycémie a été faite. Puis là, tu es prêt à remanger. Là. Tu vas avoir des rages, tu vas avoir un up and down de glycémie. Versus, tu manges 7 œufs ou 6 œufs pour le même nombre de calories. Ça se peut que tu sois capable de flyer jusqu'au midi. Parce qu'ils sont encore dans ton ventre, ça prend 3-4 heures d'assimilation des œufs. Fait que c'est vraiment important de bien comprendre ça. Le temps d'assimilation, mais aussi les choix alimentaires qu'on fait puis tout.
Je revenais sur ce que tu as dit tantôt, tu parlais des acides aminés essentiels. Puis tu as dit, les non-essentiels sont souvent des suppléments, mettons.
Ouais. C'est souvent les bases de suppléments qui vont vendre
Ben, il y a souvent des suppléments individuels, t'sais, mettons l'arginine, ouais. la glutamine, etc. Mais mettons pour ceux qui, il y en a ceux qui vont l'écouter et qui vont se dire, tu sais, on parle souvent des BCAA et des EAA.
Dans le domaine sportif.
Juste pour démystifier la différence entre les deux, très très simple. Les EAA, c'est un acronyme pour Essential Amino Acids. Donc les 9 acides aminés essentiels que tu disais, c'est ça des EAA. Mm. Puis quand on parle des BCAA, c'est pour Branch Chain Amino Acids. Mm. Donc les 3, puis dans le fond, la différence, c'est que dans les BCAA, t'en as 3 acides aminés qui sont dans les 9 acides aminés que tu parlais tantôt.
Essentiel.
Qui est leucine, isoleucine, valine. Mm. Donc, BCAA, ces 3-là, les EAA, les 9.
Les 9.
La différence, c'est que les BCAA sont beaucoup plus concentrés en leucine, isoleucine, valine que les EAA. Mm. Puis, principalement, puis c'est là justement j'arrivais à mon point, tantôt on parlait de leucine. J'ai sorti ça tantôt, mais je trouvais ça super intéressant. La leucine, dans le fond, stimule le mTOR. Okay? Le mTOR, c'est un des processus qui permet la croissance cellulaire de plusieurs affaires. Puis le mTOR fait en sorte que ça l'initie la synthèse des protéines. Donc, l'acide aminé qui fait en sorte que ça crée, en fait, qu'on débute le processus de la synthèse des protéines, c'est la leucine. Puis, je parlais de ça à cause des suppléments parce que je me disais, mettons, beaucoup de personnes prévoient ça pour faire comme, OK, la leucine, c'est super anabolique. Dans un sens, c'est vrai, là. Fait que pourquoi qu'on n'irait pas juste supplémenter en leucine, ça irait vite, on stimulerait la synthèse des protéines.
Explique, c'est quoi la synthèse des protéines en 2 secondes?
C'est la création de nouveaux tissus, c'est l'anabolisme, on va dire ça comme ça. L'anabolisme, c'est la création de
tissus musculaires,
pas juste musculaire,
etc.
Mais n'importe quoi. Tout. Exactement, de tout ce qu'il y a
dans le fond, le principe de la protéine qui crée, construit, répare, mais principalement l'anabolisme, c'est le fait de créer, et le catabolisme, c'est le fait de détruire quelque chose d'existant.
C'est ça.
Exact.
OK. Puis la leucine en supplémentation, ce que j'ai sorti tantôt, augmente la synthèse des protéines à court terme, ce qui est anabolique, clairement, mais ne semble pas se traduire à une prise de masse musculaire sur le long terme quand tu as besoin de tous les acides aminés essentiels pour maintenir la synthèse des protéines. Donc, sur le court terme, oui, anabolisme, mais ça s'inhibe très rapidement parce que tu n'as pas les autres acides aminés essentiels. Donc, tu sais, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre entre les EAA et les BCAA. Moi, souvent, ce que je dis, c'est si tu prends ça pour augmenter la synthèse des protéines et l'anabolisme, je te conseille fortement d'y aller avec des BCAA pendant que tu t'entraînes ou avant. Il y a des études qui démontrent les deux. Et si, tout à l'heure, tu parlais de végétarisme, si tu es végétarien ou vegan, c'est tout, là. Mais là, ça serait peut-être idéal d'aller chercher des EAA parce que tu es sûr d'aller chercher justement ces 9 acides aminés essentiels.
Supplément en acides aminés essentiels qui fait en sorte que les vegans, sur le moyen long terme, on ne parle pas de fer ici, là, il y a d'autres facteurs, mais sur le long terme, ce qui va créer des dommages justement à la santé métabolique et santé physiologique des personnes qui sont en mode vegan, c'est les carences en protéines. C'est le fait qu'ils se dévitalisent, qu'ils perdent la masse musculaire puis qu'ils atteignent justement une masse musculaire génétique en bas du 100% de ce qu'ils devraient avoir. Fait que c'est ce qui fait en sorte que leur dévitalisation, après ça, c'est l'eau intracellulaire, puis après ça, c'est les cellules qui viennent à moins alimenter.
B12, fer, protéines.
Souvent, c'est ça. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'aspects possibles au niveau des carences alimentaires lorsqu'on a un mode de vie vegan. Et si on est capable d'aller contre ça avec les protéines, ben oui, dès l'instant où derrière cette. En fait, si vous êtes dans votre voiture en train d'écouter ça et que vous avez dans l'optique de faire un mode de vie plus vegan ou de diminuer la viande, aller directement dans une place comme Shop Santé et aller magasiner pour des EAA. Ça goûte super bon, c'est super facile à boire. Mmh. Vous mettez une scoop dedans votre eau et vous passez la journée à boire ça. Il y a plein de saveurs, mais en même temps, ça va juste littéralement vous permettre d'éviter des carences en protéines.
Voilà.
Et j'en rajoute un autre coup tant qu'à y être. Allez donc vous chercher une bonne multivitamine aussi si vous n'avez pas de médication spécifique, quoi que ce soit. Fait que tu sais, ça peut directement régler 2 problématiques. Fait que, tu sais, ça, c'est des petites affaires qui sont importantes. Et encore une fois, lorsque vous décidez de faire des gros changements drastiques au niveau de votre mode de vie, votre écosystème, quoi que ce soit, allez donc chercher un encadrement. C'est toujours bien parce qu'il y a des spécialistes que ça fait des dizaines d'années qui étudient là-dedans et qui sont capables de mieux vous recommander que de le faire seul. Et malheureusement, c'est plate à dire, mais j'ai rencontré, il y a environ un an et demi, une pharmacienne. Tu sais, elle a énormément de connaissances dans le domaine de la santé, puis... Mais cette personne-là a décidé de tomber végétarienne par elle-même. Elle avait vu une annonce un matin à la télévision, puis elle s'était dit, à partir de maintenant, c'est fini la viande. Et elle a coupé drastiquement la totalité de toutes les possibilités de manger de la viande. Fait que, elle est venue me voir, masse musculaire, squelettique, était à terre complètement, était dévitalisée, elle avait perdu quelque chose comme 20 livres depuis qu'elle avait coupé la viande. Elle était super contente, elle a perdu 20 livres, elle était faible. J'avais pas d'autre mot, était dévitalisée, était déshydratée, était ultra faible. Puis je suis sûr et certain, si tu étais allé faire un profil de vitamines et minéraux dans son sang, sérologique, automatiquement, tu te serais rendu compte que cette personne-là est en ce moment en grosse carence alimentaire. Parce qu'elle n'avait pas les connaissances et elle n'avait jamais pris la peine de regarder.
Elle avait juste coupé la viande, mais Elle a été décarcée, mettons, en vitamines, minéraux, tu vois.
Elle a été décarencée dans plein d'aspects. Parce que son corps se dévitalisait. Parce que si tu perds ta masse musculaire, c'est une grosse réserve d'eau, de glycogène et de plein de facteurs qui vont te permettre d'avoir de l'énergie et tout.
Mais elle prenait pas pantoute de masse.
Zéro supplémentation, ni rien. Aucune protéine. Elle faisait juste manger du blé, des affaires de même. Fait qu'elle avait le mode de vie, deux tranches de pain le matin avec peu importe ce qu'elle mettait dessus. Mais elle avait jamais changé pour un mode de vie équilibré, vegan. Tu sais, c'est complexe quand même. Quand on décide de couper un peu comme les keto, quand on décide de couper un macronutriment au complet de toute notre alimentation, il peut y avoir des répercussions sur votre santé. C'est simple de même. Mais une personne qui a, on va dire, une glycémie très instable et que la personne est résistante à l'insuline et que du jour au lendemain, elle décide de tomber keto, traîne-toi un fruit avec toi parce que ça se peut qu'en plein milieu de ta journée, tu aies des sueurs froides et qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que si ta glycémie chute en bas et tu tombes en hypoglycémie, tu es à 3 millimoles par litre, tu commences à en échapper en tabarouette. Là. Fait que c'est un peu le même principe avec les vegans. La seule affaire, c'est que ce n'est pas des répercussions physiologiques instantanées ou métaboliques. C'est le fait que tu vas perdre la masse musculaire, c'est le fait que tu dévitalises, que ton eau intracellulaire sort de tes cellules, et c'est le fait que tranquillement, pas vite, ben, tu es directement en perte. Et ce qui est intéressant avec cette cliente-là, c'est que sur son 15-20 livres de perdu, la moitié était quasiment en masse musculaire. Mm. Fait que tu sais, c'est un peu...
En fait, le point là, dans ça, juste pour faire bien comprendre aux gens, c'est que si tu décides d'être vegan... Tu peux le faire. Tu peux le faire de la bonne, de la très bonne façon. J'en connais des personnes qui sont végétariennes puis qui ils sont super en santé. Le seul point, c'est de faire en sorte de le faire de la bonne façon.
Ouais, absolument.
Il faut que tu comprennes comment fonctionnent les acides aminés pour savoir quels acides aminés se complètent pour créer une protéine justement qui est complète.
Ouais.
Voire de te supplémenter de la bonne façon pour le faire de la bonne façon.
Absolument.
Parce que c'est la plupart du temps, c'est pas que le végétarisme est nécessairement néfaste, c'est que le végétarisme se fait vraiment, vraiment très, très mal.
Mm.
Et beaucoup de personnes font le végétarisme pas nécessairement pour... Ah, by the way, beaucoup de personnes le font pas nécessairement pour la santé de... justement des protéines, des CTC. Il y en a gros qui le font juste pour les valeurs animales, les valeurs de ci, puis c'est tout à fait correct.
Ouais.
C'est rien que faut savoir comment le faire.
Ben, en fait, il ne faut pas que tu te rendes malade en essayant de changer ton aspect alimentaire parce que tu as vu une annonce qui disait que tu allais tomber malade ou que tu as vu un côté éthique.
C'est ça.
C'est con, mais le but, c'est quand même, veux pas, la santé. L'alimentation est un levier vers une bonne santé, une bonne énergie. Puis l'alimentation, c'est pas compliqué. C'est notre gaz pour être capable de vivre une vie, élever notre famille, monter notre business, gagner notre vie, faire tous nos plaisirs. Fait que quand l'alimentation commence à te drainer puis que la personne vient avec une condition médicale ou une condition de dévitalisation chronique, une fatigue chronique, parce qu'elle n'est pas dans la compréhension des choses saines dans ce mode de vie-là.
Non, on se comprend.
C'est ça.
Fait qu'on se comprend. Okay. Tu sais, tantôt, tu parlais de glucides et tout, là, mais dans le fond, les glucides, c'est genre le seul macronutriment qui n'est pas nécessairement essentiel à la vie. La seule affaire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement moins bon ou quoi que ce soit. Parce que si tu regardes un athlète qui a besoin de faire une compétition X, puis tu lui dis « Ah, ben les glucides, c'est pas nécessairement essentiel à ta vie, donc tu pourrais couper les glucides, manger juste protéines, lipides, genre faire du keto », ben oui, il va pouvoir le faire, mais il va pas avoir les meilleurs résultats. Fait que les protéines, c'est essentiel. Les lipides, c'est essentiel, voire quasiment impossible de toute façon d'avoir une carence en lipides. Mais parce que de toute façon, si tu manges des protéines, la viande, t'as des lipides. Fait comme, mais les glucides, tu pourrais ne pas manger, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement néfaste. Ça dépend de ton mode de vie.
Ça, on va en parler. On va littéralement parler de tous les différents types de modes de vie alimentaires. Le méditerranéen, le keto et toutes les keto. On va s'en faire un bon podcast là-dessus, ça va être sa coche.
Je passe au prochain sujet qui est « Quelle est la part recommandée? » Je vais parler de Santé Canada, ce qu'ils recommandent. Et après ça, ce qui est la part recommandée que les études vont recommander. Okay? Premièrement, dans le fond, selon l'apport nutritionnel de référence au Canada, l'acronyme c'est ANREF, c'est Santé Canada, recommande 0,8 g de protéines par kilogramme de peau corporelle.
Et ce
qui donnerait 0,36 g de protéines par livre de peau corporelle. Moi, je suis bien dans le livre.
Ça veut dire que je pèse 190 divisé par 2,2, ça me fait 77 kg. Ça veut dire que techniquement, 77 kg, c'est combien?
0,8. Mais vas-y, en termes de livre, moi, c'est ça que je trouve le plus simple. Ça dit 0,36 g par livre de peau corporelle. Donc, si tu pèses 100, mettons, en tout cas, c'est dur à calculer vite de même. Mais
0,3.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est l'apport recommandé, le minimum, pour ne pas avoir d'effet négatif sur ta santé. Parce que si tu vas en bas de ça, les effets négatifs, c'est quasiment instantané. Là, okay? Fait que ça, c'est genre juste pour, je veux dire, quasiment la survie. Là, okay? Pourtant, les études suggèrent qu'un apport de 2 à 3 fois justement l'apport nutritionnel recommandé en protéines améliorerait la composition corporelle comparé à un apport plus faible près de l'ANR, justement de l'apport nutritionnel recommandé. Okay? Fait que maintenant, j'embarque justement dans le concept.
Ben, en fait, j'ai un petit point à parler face à ça parce que littéralement, j'ai un bel exemple qui me pop en tête. Actuellement, je travaille avec 4 personnes qui sont après processus de chirurgie bariatrique, une broche à l'estomac. C'est des personnes qui avaient une 150 livres à perdre et qu'avec leur docteur, ils ont pris la décision de faire ça parce que c'était plus sain de littéralement reset le métabolisme que de continuer dans cette condition-là pour le cœur, pour la tension, etc. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, les recommandations de Santé Canada et les recommandations de spécialistes qui ont étudié, des docteurs qui ont fait des études en laboratoire et tout, est deux choses complètement différentes. Cette cliente-là, juste pour expliquer un peu la situation, parce que c'est littéralement juste le focus protéines, elle est allée voir, dans le fond, des diététiciennes de l'hôpital, et etc. Puis, tu sais, c'est quand même, on va dire, simple ce qu'ils vont lui conseiller. Manger des protéines à tous les repas, et etc. La personne est littéralement capable de manger, les personnes qui sont dans cette condition-là sont capables de manger 4 amandes et ils sont saturés, ils ont mal au cœur. Après ça, 4 heures plus tard, ils sont capables de prendre un petit yogourt grec, là, c'est tremper sa cuillère, rendre ça, c'est plus capable après ça. C'est pas un yogourt, là. Puis, littéralement, dans leur journée, s'ils mangent 3 repas de même, on va dire peut-être 1 mois, 2 mois après l'opération, ils sont bons. Fait que qu'est-ce qui se passe lorsque la personne commence à perdre du poids? De un, on se rend compte souvent que les personnes qui vont avoir un surpoids de 100 livres et plus, ils vont avoir une masse musculaire et squelettique, comme tu as pu voir de Slain Body, aux alentours d'un 130 à 140%. Ça veut dire qu'ils ont entre 20 et 40% plus de masse musculaire que ce qu'ils devraient génétiquement avoir. Et automatiquement, dès le premier mois, puis moi, ça m'avait vraiment impressionné parce qu'en ce moment, j'en ai 4. Fait que je suis capable de voir clairement toutes les répercussions du mode de vie restreint à 100%. J'en ai 2 qui ont réussi à suivre leur profil que je leur ai conçu au niveau des protéines. Ils se font un yogourt, littéralement le matin. Ils vont mettre une scoop de protéines isolates dedans. Ils vont tout mélanger ça. Ils vont diluer ça avec de l'eau. Une cuillère. Ils rentrent le plus de contenu en protéines, la plus grosse densité, en une cuillère one shot. Et ils font ça au minimum 3 fois par jour. Et le restant, ils ont carte blanche. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais au minimum, on va aller contrer les besoins en protéines. Juste pour s'assurer qu'il y ait au minimum un bon 30 à 40 grammes par jour en l'espace de 3 à 4 cuillères. Puis, il y en a 2 qui ont littéralement pas été capables de manger les protéines. Ils avaient tout le temps mal au cœur. Puis, eux autres sont plus tombés dans des aliments comme de l'humus. Ils prenaient des craquelins avec de l'humus. 3 craquelins, ils mangeaient ça, puis tout. Puis, pratiquement aucune source de protéines. J'ai une cliente, littéralement, voilà même pas un mois qu'elle est venue me voir pour faire Saint Body. Elle a perdu un total de 17 livres de graisse. Non, excuse, 17 livres de poids. Combien de livres de muscle en un mois tu crois qu'elle a perdu sur 17 livres?
Vas-y.
8 livres. Elle a perdu 8 livres de masse maigre sèche. Je capotais. Son corps a tellement été carencé en protéines. Je ne te l'avais même pas dit. Je voulais justement te le dire.
Son corps. De masse maigre ou de masse maigre sèche?
Masse maigre sèche.
OK.
Fait qu'on parle d'une personne en super obésité. Là. C'est de l'obésité trimorbide. Et elle a passé de 2 catégories. Son pourcentage de gras a considérablement, je te dirais, tu sais, le pourcentage de gras n'a pas beaucoup baissé. L'IMC a droppé drastiquement. Elle a perdu, je pense, 4 points d'IMC. Fait que, tu sais, c'est majeur. Mais elle a tellement perdu de masse musculaire. Puis de l'autre côté, les infirmières la félicitaient. Ils n'arrêtaient pas de dire félicitations, mais ils n'ont pas accès à des données aussi précises que la InBody 570 qu'on a ici. Fait que quand elle est embarquée sur InBody puis que je lui ai fait réaliser à quel point elle avait perdu de l'eau intracellulaire et extracellulaire et en déshydratation et qu'elle avait perdu du muscle, là elle a réalisé.
Puis
là,
dans le fond, elle avait perdu, mettons quoi, 7 livres de graisse.
Elle avait perdu quelque chose comme 6-7 livres de graisse. Okay. Ouais. Fait que tu sais, la moitié de son poids était de l'eau et du muscle. Pas compliqué. Fait que ça m'a vraiment rentré dedans parce que depuis le début de son processus, son métabolisme basal et gang, le métabolisme de base, le nombre de calories que vous pouvez manger chaque jour inactif, juste pour combler les besoins de votre machine, c'est régulé directement par rapport à la masse musculaire. Elle avait un métabolisme de 1700 quelques calories. Ça te montre l'ampleur de la masse musculaire qu'elle avait. Puis là, en ce moment, 3 mois plus tard, puis tu sais, on fait notre possible, mais elle, psychologiquement, n'est pas capable de manger de protéines. Et descendue à 1380. Tu comprends? Tu sais, elle drop, là? C'est 400 calories de moins qu'elle peut manger chaque jour avant de commencer à prendre du poids.
En fait, c'est 400 calories de moins que son corps brûle au repos.
Ouais.
Donc, par jour. Par jour, c'est ça. Ouais. Donc, au bout de la ligne, c'est...
4000 calories par semaine. Non, par 10 jours.
Non, mais peu importe le temps. Le point, c'est qu'elle, elle a une marge de manœuvre bien moins grande. Ouais. Oui. Bien moins grande.
Elle était en train de tout perdre sa masse musculaire.
En même temps, elle peut pas rien manger. Fait que
tu sais, moi, ce que je lui ai fait savoir, c'est que c'est un reset métabolique complet. mais son métabolisme, parce que sa masse musculaire va être probablement sous les 90 % ou 95 % de ce qu'elle devrait avoir génétiquement. Fait qu'elle passe de 140 à 90, et je lui ai fait comprendre que c'est inévitable qu'après ça, il va falloir qu'elle aille l'opération au niveau de l'abdominoplastie, etc., se faire retirer de la peau, et il va avoir un gros processus de tonification après ça à faire. Mais la reprogrammation au niveau des protéines doit être faite, puis là, je pense qu'elle est partie la dernière fois, et elle a compris là, qu'elle n'avait pas le choix. Tu sais, on en avait parlé dans l'autre podcast, mais la discipline versus la motivation, elle n'a aucune motivation puis elle a mal au cœur en mangeant des protéines. Mais la discipline, c'est en ce moment, tu subis une chirurgie bariatrique. Ce que tu dois faire, tu le fais. Point. Tu n'es pas capable de manger et je comprends le bloqueur physiologique, mais ça reste quand même que ta priorité, ce n'est pas de manger de l'humus, qui est une protéine incomplète. C'est de rentrer une protéine complète dans ton corps pour essayer de maximiser le plus possible la rétention de masse musculaire parce qu'en ce moment, tu es dans un déficit extrême. Et tu te ramasses dans une situation où tu mets ton muscle parce que tu n'as pas assez de certains types de protéines et d'acides aminés qui font en sorte que tu es en grosse perte de poids drastique et c'est du muscle à perdre.
C'est fou, mais t'as je veux juste... raisons principales pour lesquelles tu veux monter l'apport en protéines dans un processus de perte de poids.
C'est d'éviter de perdre.
C'est de pouvoir maintenir une masse maigre.
Absolument.
Parce que si tu rétentionnes ta masse maigre, les études démontrent clairement que tu peux maintenir un processus de perte de poids beaucoup plus facilement une fois que tu as atteint ton poids que tu voulais perdre que si tu perds ta masse maigre.
Absolument.
T'sais, de là le point de faire de l'exercice aussi.
Ben, tu vois, le processus, c'est con, là, mais en termes de chirurgie bariatrique, la broche reste là tout le temps. Là. Le corps ne va pas juste l'éliminer, elle reste là. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puis je l'avais sorti à mes clients, 50 % des gens qui font une chirurgie bariatrique reprennent tout leur poids ou plus de poids 4 ans après. C'est malade. Fait que toutes les personnes
qui parce que le problème, c'est que la plupart du temps, ces personnes-là... Exact, c'est ça. C'est que, tu sais, mettons, elle ou la personne que tu parles qui est venue te voir, ben comme tant mieux, puis genre, félicitations honnêtement, parce que, tu sais, elle, dans le fond, a fait une chirurgie bariatrique, OK,
reset son corps.
Mais au moins, tu viens chercher des connaissances pour savoir qu'est-ce que tu dois faire après.
Absolument.
Ceux qui font des chirurgies bariatriques par-dessus chirurgie bariatrique, puis qui, comme, ils changent jamais leur mode de vie. Mais qu'est-ce que tu comprends pas?
On avait terminé notre suivi. On avait fait un suivi 3 mois pour commencer, juste pour voir au niveau de la programmation. Elle a super trippé. Puis là, j'arrive en face de elle, puis je dis, comment tu vois la suite des choses? Puis elle me dit, ben, je continuerai le suivi. J'ai dit, écoute, je te pose 2 questions. Et si tu n'es pas capable de me répondre à ces questions-là, oui, on continue le processus définitivement. Puis elle a besoin encore pour le reste de l'année. Là. J'y avais dit, si demain matin, je disparais de l'équation, est-ce que tu crois être capable de maintenir tes habitudes sur le long terme? Non, pas encore. Est-ce que tu es confiante en tes moyens que tu vas être capable de prendre des bonnes décisions lorsque les moments vont venir? Est-ce que ta programmation est rendue à ce stade-là où tu vas être capable de dire non lors des moments que tu vas devoir dire non au niveau alimentaire? Et est-ce que tu vas être capable aussi de prendre le contrôle sur ta petite voix? Et d'écouter ce que tu dois faire et non pas ce que tu as envie de faire. Elle a dit non. J'ai dit on continue le suivi. On n'est pas encore rendu là, la programmation n'est pas faite. Fait que tu sais, c'était pour expliquer ça, mais manger des protéines, gang. Dans un processus, si vous faites une perte de poids de 30, 40, 50 livres et que vous avez perdu, on va dire, 10 livres de masse musculaire sur 40 livres de gras, vous allez vous retrouver dans une phase où le métabolisme, comme tantôt je disais, va baisser de 1600 à 1300. Donc votre corps a moins de capacité de pouvoir brûler de la graisse, du poids. Des calories à rien faire. Fait que tu te ramasses dans une situation où tu es beaucoup plus à risque de reprendre du poids facilement. Et c'est ça l'effet rebond. C'est que les gens perdent de la masse musculaire lors d'un processus de perte de poids, ce qui affaisse le métabolisme. Et après ça, whoop, ils reprennent tout.
Mais c'est important de comprendre que quand tu t'emmènes dans une perte de poids, c'est évident que tu vas perdre de la masse musculaire. La seule affaire, c'est que les protéines et l'exercice, parce que j'ai mis les deux ensemble, vont venir t'aider à rétentionner le plus possible de masse musculaire. C'est là le point.
Exact.
Parce que si tu viens de voir et tu as perdu 0.6 livres de masse maigre sèche, mais tu as perdu genre 22 livres de graisse, c'est insane.
Coup de circuit. Vois, hein?
Mais si tu as perdu 8 livres de masse maigre, là, oh shit, attends un peu.
Puis comme bien les processus, tu as développé 4 livres de muscle ou 3 livres de muscle et qu'en plus de ça, tu as perdu 30-40 livres.
Hey, ben, souvent, c'est parce que les personnes,
ben, trop carencées.
C'est ça, ils mangent tellement pas de protéines.
Fait que tu leur donnes.
Je passe au prochain cas.
Ouais, vas-y.
Quel est l'apport, parce que tantôt justement, j'étais là-dedans, là, je veux finir ça, c'est important. C'est l'apport nutritionnel recommandé, c'était 0,36 g par livre de poids corporel. Puis maintenant, je vais expliquer c'est quoi l'apport qu'on recommande idéalement. Puis by the way, juste pour ceux qui se demandent un petit peu comment qu'on calcule tout ça, là, moi, ce que je dis tout le temps, là, j'en parle à tous mes clients maintenant parce qu'ils deviennent conscients face à ça. Là. Mais c'est quand tu regardes dans un processus, on va parler de la perte de poids encore une fois, mais ça peut être n'importe quel, même dans un processus de prise de masse, ça pourrait être ça, ou juste d'équilibre métabolique pour être en santé. Là. Mais la première étape, c'est combien de calories que tu as besoin. Fait que tu sais, c'est exemple, je vais faire des chiffres très ronds, là, le but, c'est pas de faire des calculs, mais mettons que tu as besoin de 2000 calories total, tu brûles 2000 calories totales, tu veux perdre du poids, tu en manges, exemple, 1500, fait que tu as un déficit de 500 par jour. OK, parfait. Fait que là, on sait que tu as besoin de 1500 calories. Parfait, étape numéro 1. Étape numéro 2, quel est ton apport en protéines que tu as besoin? Ça, c'est la deuxième affaire la plus importante. Et là, ce qu'il faut comprendre, tantôt, tu l'as dit, je pense, j'ai au début, tu as dit 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Je pense que tu l'avais dit. Donc, 1 gramme de protéines équivaut à 4 calories. Fait que je vais prendre un exemple très simple. Si sur le 1500 calories que tu as besoin, on prend en considération qu'on vise, et je vais en parler par la suite de ça, un gramme de protéines par livre de masse maigre, puis qu'exemple, tu as 100 livres de masse maigre, je fais des chiffres bien ronds pour que ce soit simple. 100 livres de masse maigre, tu as besoin de 100 grammes de protéines, approximativement. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 100 grammes fois 4, 400 calories. Donc, tu en as besoin de 1500. Sur ton 1500, tu en as 400 qui proviennent des protéines, il t'en reste 1100. Et là, le 1100, c'est comme, on en parle souvent de ça, mais qu'est-ce que tu fais avec le reste des 1100 calories? C'est les deux autres macronutriments qui sont glucides, lipides. Donc là, c'est une question de préférence.
C'est pas très
à moins que tu sois, c'est ça, je dis tout le temps, que tu sois un athlète ou quelqu'un qui veut vraiment performer, même là, je ne mettrais pas un déficit calorique de 500. Là. Mais mettons, c'était le cas, là, j'augmenterai les glucides plus, puis je garderai les glucides.
Plus d'énergie.
Mais sinon, c'est une question de préférence selon qu'est-ce que tu as le goût de faire. Fait que quand on pense aux protéines, tantôt, tu disais protéus, le mot en grec. Protéinus ou je sais pas quoi.
Là, ouais, ben, le vrai mot, je disais protéus, mais c'est pas le vrai mot.
C'est protéini. Ça,
c'est protéus.
Tantôt, je t'allais voir, ça disait protéinini qui donnait, en tout cas, c'était vraiment...
C'était banini.
Mais anyway, le point, c'est que c'est la chose la plus importante. Donc, la première affaire, calories, deuxième, protéines. Après, tu détermines qu'est-ce que tu as le goût de faire selon ton niveau d'adhérence par rapport à qu'est-ce que tu sais que tu vas être capable de maintenir. Mais calories, protéines, c'est comme...
Fait
c'est
de la façon dont tu parles, et je suis du même point que toi, et de ce qu'on a pu voir en pratique ici en clinique, t'as pas à te restreindre. Souvent, les personnes vont se dire, les glucides, c'est les patates, pain, pâte, j'adore ça, ça goûte bon, j'adore ça. Mais l'affaire, c'est qu'ils se restreignent. Ils pensent dans leur tête que la perte de poids, ils doivent absolument couper les glucides parce que malheureusement, les réseaux sociaux et les, on va dire, gourous de ce monde disent ça, ils recommandent ça beaucoup.
Mon live mercredi, c'était ça.
À propos c'était
est-ce que les glucides font prendre du poids? Puis Abado aussi, ben, de toute façon, on va en faire en
podcast. On va en faire en podcast.
Mais genre, mais en tout cas, c'était vraiment solide comme live, je trouve, mais comme ça démystifiait vraiment, vraiment le mythe des glucides. Fait que c'est vraiment une question de...
De préférence.
Préférence. Puis tu sais, si je peux résumer juste ce que j'ai dans le live en 35, même pas en 2 secondes, là, c'est les études démontrent que à calories et protéines égales, les glucides, l'apport en glucides versus lipides, si tu gardes les mêmes calories, que tu as le même apport en protéines, ça ne change absolument rien. Pas sur tout, sur la perte de poids. Ouais.
Quand on parle d'aspect nutrithérapie, donc d'être capable de se soigner, on va dire, avec la nutrition, c'est sûr, ça va avoir un rôle. Les lipides vont avoir certaines fonctions. Mais lorsqu'on parle de perte de poids, et c'est une grosse majorité de notre code d'écoute, lorsqu'on parle de perte de poids, si tu as 1500 calories et que tu combles les besoins en protéines, comme tu as dit, s'il te reste 1100 calories à aller chercher, tu peux aller chercher littéralement ton 1100 calories. Mettons, on va dire, tu peux aller chercher 900 calories en glucides et tu peux aller chercher 200 calories en lipides. Ou tu peux faire l'inverse, tu peux aller chercher 900 calories en lipides et 200 en glucides. Il n'y aura pas de différence et d'impact différent au niveau de ta perte de poids, mais au niveau énergie, santé, vitalité, longévité, oui.
Pour des gens qui sont actifs, je l'ai glissé tantôt, on recommande 1 gramme par livre de masse maigre selon l'entraînement, l'âge. Est-ce que tu es en déficit? Est-ce que tu es en surplus calorique? Okay, tantôt, je vais parler justement de ça, parce que c'est super intéressant. Pour des gens qui sont actifs, encore une fois, mais qui sont une voie un petit peu plus complexe, quand on pense à quelqu'un qui est en déficit calorique versus quelqu'un qui n'est pas en déficit calorique, puis ça fait une énorme différence. Quand tu es en déficit calorique, tu veux monter plus ton apport protéine que si tu ne l'es pas.
Pour éviter de perdre
parce que les calories, l'excès calorique, si tu n'es pas en déficit calorique, et ou les glucides, favorise l'anabolisme. Donc, tu as besoin de moins de protéines si tu es en excès calorique versus un déficit calorique. Okay? En déficit calorique, tu veux viser entre 2,3 à 3,1 grammes par kilogramme de masse maigre. Et pour ceux qui ne sont pas en déficit calorique, tu peux descendre ton apport en protéines pour les mêmes effets anaboliques à 1,8 de 1,8 à 2,6 kilogrammes par livre de masse maigre. Par kilogramme, excuse-moi, de masse maigre. Donc, je répète, c'était pas clair. Déficit calorique, 2,3 à 3,1 grammes par kilogramme de masse maigre. Pas de déficit calorique, 1,8 à 2,6 grammes par kilogramme de masse maigre. Donc, moins que tu es en déficit calorique, moins tu as besoin de protéines jusqu'à un certain point.
Puis, un point aussi, juste à spécifier, là, on embarque un peu plus dans la complexité, mais comment savoir notre masse maigre? C'est simple, c'est line body, dans le fond, tu l'as-tu...
Vas-y.
T'allais-tu parler de ça?
Ouais, mais vas-y, c'est pas grave.
Ah, ben, tu sais, en soi, nous autres, parce qu'on a une bioimpédance, en fait, on a deux facteurs ici qu'on est capable de calculer la masse maigre, mais on a, dans le fond, les pinces Arpenden qui nous permettent de faire la biosignature de Charles Poliquin. Fait qu'on est capable de prendre les plis cutanés, de prendre un pourcentage de gras. Exemple, une personne est à, je sais pas, 20 % de gras, elle pèse 200 livres, ben elle a 40 livres de graisse sur elle. Fait qu'on est capable, après ça, d'enlever le 40 livres et il nous reste 160 livres de masse maigre. Donc, il n'y a pas de gras autour de ça. Fait qu'on sait que la personne a 160 livres de masse maigre et 600 à midi, exemple, on a besoin d'un gramme de protéines par livre de masse maigre, mais cette personne-là doit manger techniquement 160 grammes de protéines pour être capable d'aller chercher l'anabolisme musculaire comme tu parlais. Fait que tu sais, nous on a ces pinces-là, puis sinon on a un scanner à bioimpédance InBody à la clinique ici. C'est une très belle machine qui nous permet d'avoir plein d'informations, mais elle nous sort directement dans le fond le métabolisme qui est associé à la masse maigre. Fait qu'on est capable de segmenter le muscle pur, le muscle, l'eau et les tendons, et juste le muscle et les tendons. Fait que c'est super intéressant ça, parce qu'on peut savoir où est-ce que la personne a gagné de la masse musculaire, mais on a aussi le chiffre le plus précis qu'on peut avoir, beaucoup plus que les pinces. Et si une personne pèse 200 livres, on est capable de savoir qu'elle a 147,6 livres de masse musculaire et squelettique, ou masse maigre. Fait qu'on est capable de se baser sur un chiffre beaucoup plus précis. Fait que c'est ça en tant que tel. Si vous êtes à maison et que, exemple, vous vous posez la question « comment je fais pour prendre nos chiffres et d'utiliser ça pour mes propres calculs? » En général, c'est simple. Allez voir un entraîneur, allez voir un coach, allez voir quelqu'un qui va être capable de calculer votre pourcentage de gras. Venez nous voir si vous êtes à Trois-Rivières. Venez faire la InBody, ça prend 10 minutes. Mais d'avoir ce chiffre-là va vous suivre pour longtemps et vous allez être capable après ça de vraiment bien structurer vos objectifs, vos besoins, etc. Parce que de structurer les besoins en protéines, c'est la première priorité que vous devez faire dans un processus de perte de poids.
Ben, gars, justement, c'était exactement mon prochain point. C'est-à-dire, c'est toujours plus. Puis ça, c'est important à comprendre, OK? C'est toujours plus précis de calculer par livre de masse maigre que masse totale. Parce que la plupart des calculs, tu sais, si tu n'as pas accès à une InBody, il y a bien du monde qui n'a pas accès à une InBody, on s'entend. Le calcul simple qu'on va souvent donner, puis c'est tellement relatif parce que si tu es une personne, mettons, à 37 % de gras en obésité, tu es moins précis dans les calculs.
Absolument.
Mais en gros, ce qu'on va dire, c'est 0,7 grammes de protéines par livre de poids corporel. Ce qui veut dire que, exemple, tu pèses 100 livres, c'est impossible. 0,7, t'as de 70 grammes de protéines.
J'ai vu un gars la dernière fois sur Instagram, là, je capotais. J'avais vraiment envie d'y envoyer le squad à côté, en arrière de lui. Là. C'était dangereux ce qu'il disait quasiment, mais tu sais, il disait, c'est simple. Tu veux perdre du poids, tu pèses 100 livres, tu manges 100 grammes. Tu pèses 200 livres, tu manges 200 grammes. Tu pèses 300 livres, tu manges 300 grammes. Tu manges 1 gramme de protéines par livre de masse.
C'est parce que la problématique avec ça, c'est que la personne qui pèse 300 livres de muscle, OK, fine, mais ça arrive pas, là, à moins que tu sois un culturiste. Mais tu sais, l'affaire, c'est que la personne qui va peser 300 livres va avoir beaucoup plus de gras, et le gras n'a pas besoin de protéines.
Puis là,
c'est la masse maigre qui a besoin de protéines. C'est pour ça qu'on calcule à partir de la masse maigre. Sinon, c'est pas précis.
Parce que réellement, la personne de 300 livres, prendre cet exemple-là, qui pèse 300 livres, elle se retrouve dans une situation où elle a, exemple, un pourcentage de gras de 40 % ou 50 %. Fait qu'elle a 170 livres de muscle, de masse maigre, et elle a 130 livres de gras. Réellement, non, c'est 170 grammes, mais là, elle est en train de tout activer la digestion, de se scraper, en tout cas, elle va avoir
tout ça. De toute façon, justement, gars, ça mène au prochain point avant que tu dises scraper. Si on a une étude d'un apport allant jusqu'à 4,4 grammes par kilogramme de masse maigre, ce qui donne 2 grammes par livre. Fait que si tu pèses 200 livres, tu prends 400 grammes de protéines par jour, ne semble pas avoir d'effet négatif sur la santé. D'ailleurs, à la fin, je vais parler un petit peu de mythe face à ça, mais pour vrai, même si tu manges vraiment plus de protéines, ça ne fera rien. Tout ce que ça va faire, c'est que tu vas utiliser l'excès en protéines qui va être la néoglycogénèse, que tu vas transformer en glucides, tu vas comme créer des glucides, donc de l'énergie, à la place d'utiliser l'excès de protéines. Fait que comme il n'y a pas d'effet négatif là-dessus, outre le fait que tu vas waste des protéines qui coûtent cher et qui sont plus dures à digérer.
Ça coûte bien plus cher des protéines. Poitrine de poulet coûte plus cher que du blé. La néoglycogénèse, tu viens de citer un mot, puis tu sais, on va probablement rembarquer dans ce sujet-là dans un autre podcast. On a beaucoup de podcasts qui s'en viennent, gang, en passant. Fait que restez vraiment à l'affût, puis tant qu'à être là, puis le plugger, mettez-le dans vos favoris. Sincèrement, si vous aimez ce qu'on vous dit depuis le début de nos podcasts, là, n'hésitez pas, mettez-le dans vos favoris, faites follow, puis c'est vraiment important ça si vous voulez continuer de nous voir. La néoglycogénèse, techniquement, c'est lorsqu'on mange tellement de protéines qu'on sature le profil enzymatique. On n'est plus capable d'en assimiler. Donc, comme tantôt tu disais, techniquement, rendu à 2 grammes par livre, on s'entend que tu dois probablement saturer la néoglycogénèse. Tu dois saturer les réserves. Ton corps, il n'en a pas besoin de plus. Fait que le surplus, il va prendre la molécule de la protéine et la démoléculariser en glucose. Fait que ça va devenir un glucide dans votre corps. Et à ce moment-là, il va jouer un rôle de glucose. Fait qu'il va juste élever la glycémie comme un glucose normal. Fait que c'est le principe de néoglycogénèse.
Selon une autre étude, il faudrait consommer plus de protéines lorsqu'on est en déficit calorique pour maintenir un maximum de masse maigre. Je l'avais dit tantôt.
C'est logique.
Selon plusieurs études sur la synthèse des protéines en vieillissant, on devient de moins en moins. Ça, c'est super intéressant. écoutez ça. En vieillissant, on devient de moins en moins sensible aux effets anaboliques des protéines, probablement à cause de la, en raison de la leucine, comme on disait tantôt. Il faut consommer plus de protéines pour obtenir la même réponse anabolique. Ouais. Pas juste l'âge qui impacte la synthèse des protéines, mais aussi l'énergie consommée. Donc, comme je disais tantôt, plus que tu manges de calories, moins tu as besoin de protéines parce que l'excès calorique vient spare tes protéines. Ça va faire en sorte que tu as moins de chances d'avoir des carences. Manger en surplus calorique, bon, c'est ça, c'est ça que je disais. All right?
Donc, un point. Vas-y. Juste avant que tu embarques dedans le PIF et tout, tu l'as dit, au niveau de l'âge, tu sais, au niveau de l'âge, il y a, oui, des études qui prouvent que lorsque tu vieillis, puis encore une fois, il y a tout le temps des facteurs génétiques, mais il y a tout le temps aussi des, comment je pourrais dire, des facteurs environnementaux et, comment qu'on appelle ça, l'épigénétique. Fait que l'ensemble des habitudes qu'on a, puis, mais tu sais, lorsqu'une personne arrive à 60 ans, c'est sûr et certain que le système digestif, il en a vécu des toutes. Il y en a vécu de toutes sortes. Il y a eu toutes sortes de molécules, puis il y a eu à travailler. Fait que la fatigue peut se faire. Et souvent, la lecture du code de l'ADN de la personne va moins bien se faire. Fait que techniquement, l'épigénome va avoir plus de difficultés à lire les choses. Fait que ça fait en sorte que, oui, quand le corps vieillit, il vient à moins être capable de lire les fonctions qu'il a à faire. Et à un moment donné, ça se peut que la cartouche, on va dire, dans ton génome, qui est capable de faire justement l'expression du gène qui va permettre de digérer les protéines, ça fait ça un petit peu plus. C'est un peu comme le principe de la testostérone. Tu sais, la testostérone chez l'homme, c'est reconnu qu'à partir de l'andropause, elle commence à s'affaisser d'un certain pourcentage par année. Et ça, c'est la lecture...
Même avant,
c'est ouais. Ça. Je pense que c'est à partir de 30 ou 40,
c'est ça,
40
30
ans.
Ans genre.
Puis tu sais, ça, c'est l'expression du gène en tant
minime,
que
minime, là, mais...
On va en parler. Moi, j'ai hâte d'embarquer dans des sujets très complexes comme la génétique, puis la kit, comment qu'un cancer se développe, puis tout. Là. J'ai hâte qu'on parle de ça, mais... Mais ouais, fait que c'était rien que ça. C'est... Il y a des facteurs environnementaux et puis génétiques qui vont faire en sorte que, oui, il y a des processus de vieillissement qui vont empêcher la bonne assimilation de certains facteurs. Je te laisse continuer avec le TIF.
Tantôt, justement, Jay parlait du TIF. Le TIF, dans le fond, c'est l'effet thermogénique. Je sais même pas si on en parle, en fait, non?
Non, j'en ai pas parlé. J'ai juste dit le mot TIF.
OK. C'est que, dans le fond, en gros, le TIF, c'est pour Thermogenic Effects of Food, ce qui veut dire l'effet thermogénique des aliments. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les protéines ont le TIF qui est le plus élevé. Et vous allez voir, je vais donner un exemple concret à quel point ça peut faire une différence dans un processus. Le point n'est clairement pas de dire si tu manges des protéines, tu vas perdre du gras. Là. C'est pas ça pantoute. Mais ça peut jouer énormément dans un processus. On parle de perte de gras encore une fois, OK?
Explique le TIF.
C'est justement ça que je m'en ligne faire. Je vais faire ça. Puis je vais donner un exemple. Donc, c'est ça. Le TIF, dans le fond, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu manges un aliment, tu as une partie des calories que tu vas devoir assimiler qui sont un peu waste, on va dire, qui sont perdues. Et ces calories-là, tu vas en avoir moins au bout de la ligne. Fait que c'est comme de dire, dans le fond, puis en gros, je les ai ici, là, le TIF des protéines est entre 20 et 30 %. Vous allez comprendre ce que je veux dire après. Le TIF des glucides est entre 5 et 10 %, puis le TIF des lipides est entre 0 et 3 %. Ce qui veut dire qu'à calories égales, exemple,
200 calories dans
100 calories de protéines, okay. 100 calories de glucides, 100 calories de lipides, pour, en fait, en mangeant les 100 calories de protéines, tu vas en waste entre 20 et 30. Fait que réellement, il va t'en rester 70. Fait qu'au bout de la ligne, tu as mangé 100 calories, mais tu en as juste 70.
Pourquoi tu les wastes, selon toi?
C'est le processus digestif à travers ça. Puis là, j'aurais de
la métabolisation et la démolécularisation.
Ben, en fait, l'exemple que j'avais déjà lu là-dessus, c'est comme un véhicule. Le gaz que tu mets, tu vas perdre du gaz dans l'air. Ouais. Tu sais, comme c'est pas tout le gaz que tu utilises que tu vas utiliser pour pousser ton véhicule. Même en fait avec les protéines, tu vas perdre des protéines dans ton environnement avec la digestion.
C'est un peu comme les céleris, techniquement. Tu sais, le fameux mythe de
c'est,
tu manges un
tout
céleri.
Le temps dire ça, là, c'est focal
tellement,
comme mythe,
mais il y a tellement de fibres à l'intérieur que techniquement, le travail que ton système digestif va avoir à faire, le nombre de calories qu'il va devoir dépenser pour consommer, digérer, démoléculariser et faire tout le transport de ça, parce qu'un céleri, je pense, elle a 2 calories là, pour un
morceau. Oui, mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est ça le point. C'est quand je dis que c'est focal comme mythe, c'est que je me le fais tout le temps dire en passant. Pour des clients, une personne sur deux, genre, que je parle du TF, vont me sortir l'affaire du céleri. C'est ça, ouais, je te jure. Puis, mais c'est vrai, mais c'est tellement minime que, ben oui, tu sais, les gens vont, je mange du céleri, je vais perdre
du céleri. Tu viens de sauver 2 calories.
Ça change rien. Fait que TF des protéines, 20 à 30 %, donc à 100 calories, t'en wastes entre 20 et 30. TIF des glucides, 5 à 10. Donc, si tu manges 100 calories de glucides, t'en as peut-être, on va dire, 7,5 à 10 calories que tu vas waste. Donc, il t'en reste 90. Puis les lipides, si t'en manges 100, t'as 0 à 3, on va dire 3. Fait qu'il t'en reste 97. Et checkez bien l'exemple, OK? C'est super intéressant. Si tu consommes... Suivez-moi dans mes chiffres. Si tu consommes 1000 calories en protéines, OK? Tu perds environ 300 calories puis t'en retiens environ 700.
Ouais, il t'en reste 700.
T'en reste 700. Ce qui est quand même gros, la différence, puis t'en perds 300, OK? Si tu consommes 1000 calories de lipides, tu perds environ 30 calories, il t'en reste 970. Okay. Donc, t'as comme 270 calories de moins qui te restent Tu as mangé 1000 calories pareil, là, mais il t'en reste 270 de moins que si tu mangeais calories égales 1000 de protéines, 1000 de lipides. Ouais. Okay? Puis regardons un exemple concret. Mettons que tu as une diète qui est de 2000 calories totales. Okay? Donc, sur les 2000 calories totales, tu en as 400 calories qui proviennent des protéines, ce qui donne, comme on disait tantôt, à peu près 100 grammes de protéines, parce ouais. que 1 gramme, c'est 4 calories, donc si tu as 400 calories de protéines, 100 grammes de protéines. Retenez juste les calories. Okay? Donc, diète de 2000 calories, tu as 400 calories de protéines, chiffrons 800 calories de glucides et 800 calories de lipides, ce qui te donne ton 2000 calories. C'est une stratégie qui est logique. Okay? Tu finiras avec un total de 1796 calories réelles avec un TIF de protéines justement de 30%, 7,5% de glucides, c'est un range entre le 5 et 10, et 3% de lipides. Et checkez bien ça. Si à partir de là, il t'en reste 1796, juste pour dire qu'on met vraiment l'exemple du TIF en application. Si dorénavant, tu doubles ton apport en protéines, à la place d'en manger 100 grammes, tu en manges 200 grammes. Donc, au lieu d'avoir eu 400 calories de protéines, tu en as maintenant 800. Mm. OK? Et on parle à calories égales. Donc, si tu montes tes protéines, tu réduis tes glucides, tes lipides. OK? Donc, on prend le deuxième exemple. À la place de manger 100 grammes, tu en manges 200. Donc, tu es rendu à 800 calories de protéines au lieu de 400, 600 de glucides et 600 de lipides. Ça fait aussi 2000 calories, by the way. OK? Tu finirais avec un total de 1697 calories, donc une réduction des calories nettes d'environ 100.
C'est fou.
Donc, tu doubles ton apport en protéines, tu droppes tes glucides lipides, tu as les mêmes calories. Là. Mm. Et automatiquement, tu viens d'assimiler, je ne sais pas si c'est le bon terme, 100 calories de moins. Mm. Donc, réellement, tu viens de créer un déficit calorique plus grand.
Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu viens probablement de doubler la quantité totale de nourriture que tu vas manger.
Ben, en fait, je dirais, en termes caloriques, non, parce que c'est la même affaire. En termes de volume, peut-être.
Exact.
Moi, je dirais même en termes de satiété.
Oui.
Parce que si tu doubles ton apport en protéines, t'as beaucoup moins faim. Parce que dans un sens, le volume d'énergie, parce qu'une des calories, c'est de l'énergie, est le même, là. C'est 2000 calories. Mais réellement, il t'en reste 1000, enfin, un chiffron, 1007 au lieu de 1008. C'est un exemple, mais tu sais, on s'entend, tu mangeras pas tout le temps 200
grammes. C'est vraiment très concret, très bon, j'adore ça.
Super bon.
Puis là, tu viens de m'en apprendre une bonne. Tu sais, je connaissais le TIF, mais j'avais jamais fait le calcul. Fait que c'est très intéressant.
Tu sais, quand on dit d'augmenter l'apport en protéines, TIF, moi je disais satiété TIF. Puis en fait, trois. On parle de perte de gras. Satiété, moins faim, TIF parce que tu accélères ton processus et le fait de rétentionner la masse maigre. Et juste pour que vous compreniez bien, après ça, tu vas donner ton exemple d'une cliente fibromyalgique. Il faut comprendre que c'est pas de dire « Ah ben là, si je veux perdre du gras, je mange des protéines. » C'est que dans un processus équilibré, bien calculé, il y a des façons d'accélérer ton processus de perte de gras sans même t'en rendre compte à cause de des petits « hacks » entre guillemets comme ça, des petits tips que
prise de conscience et des connaissances.
C'est exact. Pas de dire d'aller dégober plein de protéines parce qu'évidemment, c'est logique que si tu manges 100 grammes de viande ou 100 grammes de calories de viande, 100 calories, excusez-moi, de viande, ben, tu vas pas perdre du gras, tu vas avoir des calories. Oui, il va t'en rester juste 70. Tu as quand même pris 70 calories, là. On s'entend. Le déficit de la perte de poids, c'est de créer un déficit calorique. Mais ça
exactement.
Vient aider.
Exactement.
C'est bon? Tu passes à ton prochain?
Tout ça, ben, en fait, t'as expliqué un petit concept en nutrithérapie. Je crois que dans le premier ou le deuxième podcast qu'on avait fait, si vous l'avez pas vu, allez l'écouter. J'avais conté un peu cette histoire-là. Mais tu sais, j'ai tellement d'histoires à raconter au niveau des clients que j'ai rencontrés en clinique. Cette madame-là, dans le fond, l'a expliqué simplement, puis l'importance des protéines. Puis, tu sais, en soi, la chirurgie bariatrique que j'ai parlé tantôt, c'en est un bel exemple aussi. Mais cette madame-là, dans le fond, là, c'est une infirmière. C'est une personne qui travaillait, elle avait fin trentaine, début quarantaine, puis elle travaillait de soir et de nuit. Fait que, tu sais, mode de vie quand même assez stable, avait sa maison, et etc. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'un matin, elle a rencontré un homme, elle vivait seule, c'était une mère monoparentale, une jeune fille de 13-14 ans, puis elle vivait seule, puis là, elle a rencontré un homme, mais l'homme, il vivait à 1h30, 1h45 de la maison qu'elle vit, elle. Puis le monsieur, dans le fond, il avait hérité d'une terre agricole quand son père est décédé, puis il vivait dans une maison bigénérationnelle avec sa mère. Fait qu'il s'occupait de la ferme, il s'occupait de la mère, parce qu'il est sur sa grosse terre agricole, il y a plein d'animaux, il y a des terres, puis tout. Fait que si elle voulait, parce que ça allait bien dans sa relation avec, si elle voulait aller vivre avec, il fallait qu'elle vende sa maison et qu'elle déménage avec lui. Fait qu'elle a tout pris ses affaires, elle a commencé à stresser son corps définitivement et elle est partie directement vivre avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, dans le fond, il avait vu des documentaires où il y avait eu des méthodes chocs. Il avait vécu des moments chocs au niveau de la viande puis il avait décidé de tomber végétarien. Puis dans leur mode de vie, quand je l'ai rencontré à madame, elle mangeait en moyenne à peu près 5% de ses besoins quotidiens en protéines, un peu comme ton cas que tu avais parlé tantôt. Fait qu'on parle de même pas 20 grammes de protéines, et encore là, c'est des protéines qui sont très peu assimilables. Fait que tu sais, elle mangeait pratiquement aucun produit laitier, fromage ni rien, c'était coupé. Elle mangeait aucun Elle mangeait pas d'œufs, elle mangeait pas de viande, elle mangeait rien pantoute. Elle déjeunait deux tranches de pain, encore là. Tu sais, c'est des repas typiques très riches en glucides. 90 % en glucides, 5 % en protéines, puis 5 % en lipides. T'as rien pour mettre un corps en santé. Puis elle a traîné ça pendant un bon moment. Puis, tu sais, un moment donné, cette madame-là, elle a commencé à vivre beaucoup de stress parce que son conjoint, son nouveau copain, ça faisait une couple de temps qu'elle était avec, il a perdu sa mère. Fait que là, lui, il avait perdu son père et sa mère dans les dernières années. Puis le fait que sa mère et son père soient partis, il avait perdu ses piliers émotionnels. Fait qu'il se retrouvait dans une situation où il était complètement débalancé. Il est tombé dans l'alcoolisme. Il a commencé, pas longtemps après, à tomber violent. Puis il a violenté la cliente. Psychologiquement et physiquement, elle s'est fait démolir. Puis elle a vécu quand même, veut pas, une situation très malsaine pendant quand même un bon bout. Puis un moment donné, il y a eu toutes sortes d'événements autour de ça, mais elle a décidé de quitter ce mode de vie-là, puis elle est partie complètement dans son ancienne ville, elle s'est retrouvée un appartement, elle a commencé à faire de la médication, des antidépresseurs, etc. Puis cette personne-là, elle a commencé à faire de la fibromyalgie. À partir du moment où elle est revenue dans son environnement, qui avait toutes sortes de grosses chicanes avec son ex-conjoint, il y avait toutes sortes de brouhaha, elle s'est ramassée à faire de la fibromyalgie, qui est une maladie musculo-dégénérative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait encore la même programmation du même mode de vie vegan. Quand je l'ai rencontrée, elle avait des douleurs à 12 sur 10. Là. C'était des douleurs atroces. Puis elle s'est ramassée dans une situation où elle était encore à 5 % 3-4 ans plus tard après cette situation-là. Sous antidépresseur, elle était en grosse dévitalisation. La masse musculaire était extrêmement faible. Puis dès l'instant... Puis c'est là qu'on explique les besoins en protéines. Puis qu'est-ce qui peut se passer si elle, comme dans son environnement, elle a vécu une quantité phénoménale de stress, physiologique, psychologique, physique, alimentaire. Elle a tout vécu les stress possibles. Fait qu'il y avait quatre grizzlies à côté d'elle. Elle était tout le temps en mode survie. Puis son corps ne réagissait plus de la même façon. Il vivait sur le cortisol. Et à ce moment-là, en plus, elle était dans un environnement où il n'y avait absolument rien pour créer, construire et réparer qui est les protéines. Fait qu'elle s'est ramassée dans une situation où son corps en a probablement développé une maladie musculo-dégénérative. Puis c'est pour le reste de sa vie. Et dès l'instant qu'elle a augmenté ses protéines et qu'elle a commencé à manger suffisamment de calories pour décarencer son corps, elle a commencé à diminuer ses douleurs drastiquement. Puis là, elle est rendue qu'elle est capable de marcher, de faire toutes ses affaires, puis elle a fait toutes ses tâches. Mais elle est consciente que dès l'instant qu'elle diminue ses protéines moindrement un peu puis qu'elle n'atteint pas sa quantité de protéines, quelques jours après, les douleurs sont omniprésentes. C'est malade, mais okay. Ça, c'est un aspect en nutrithérapie. C'est con, mais cette madame-là, c'était pas quelque chose de très complexe. C'est juste le fait qu'elle était en intense carence au niveau des protéines, qu'elle avait voulu changer son mode de vie pour suivre son ex-conjoint, mais elle avait aucune connaissance et compétence pour être capable d'avoir un mode de vie équilibré avec un mode de vie vegan. Fait qu'elle s'en est rendue malade. Selon moi, selon ce que j'ai pu interpréter, son mode de vie, avec l'ensemble des sphères de stress qu'elle a vécu, a fait en sorte qu'elle a pu développer une maladie ou quoi que ce soit. Mm. By the way, on n'est pas docteur, fait que c'est vraiment des interprétations thérapeutiques.
On s'entend que, clairement, je sais que tu le sais, mais c'est une hypothèse. Là,
c'est parce une hypothèse.
C'est pas parce qu'elle ne mange pas de protéines qu'elle a développé de la fibromyalgie.
C'est ça. Ça peut être génétique, ça peut être... Tu sais, quand on parle de maladie comme une fibromyalgie, c'est l'expression des gènes, c'est quelque chose de tellement important. 30 %, c'est selon le docteur Hyman. J'avais lu un livre sur lui, justement, qui était... C'était Lifespan. C'était un livre sur la longévité. Puis c'est un des plus grands spécialistes avec le docteur Sinclair. Puis il expliquait dans le fond dans son livre que 30 % de la maladie est causée par la génétique et 70 % par l'épigénétique. Fait que c'est causé par l'ensemble de tout le stress, l'écosystème dans lequel que t'es, ton alimentation, ce que tu vis pas, toutes les autres choses que la génétique. Fait que on va en reparler de toute façon de ça, de l'expression des gènes, de la génétique, de la maladie et tout le kit. Ça va être des bons sujets. Fait que Sam...
Je termine avec... il reste genre... En fait, on est correct? 5 minutes. Je veux juste démystifier des mythes. En fait, c'est qu'on l'entend tout le temps. Tu sais, combien de fois Dieu t'a entendu par des personnes, je peux manger trop de protéines, c'est dangereux. Là. Moi, je l'entends souvent. Hey, j'avais vu...
Juste des personnes qui déjeunent avec deux pop-tarts licorne puis des ailes de poulet. Ils déjeunent avec ça, là, c'est dégueulasse. Puis là, je leur dis, à partir de maintenant, tu vas prendre 3 œufs. Et... Là, c'est dangereux, 3 œufs.
Ben, c'est ça, mais c'est ça. C'est
il y a trop de protéines.
Fou, man, les reprogrammations. Mais c'est dangereux à cause du cholestérol sanguin, mais ils se dégobent genre 2 pizzas poutine. Mets tes priorités aux bonnes places. Mais tu sais, les mythes, mais j'avais vu à un moment donné un article, c'était TVA Nouvelle. En fait, tu as le droit de le dire, on s'en fout. TVA Nouvelle, OK?
Ouais. Non, t'as pas le droit de le dire, mais tu sais.
TVA Nouvelle, c'est
ben,
ça. Que
d'habitude, les gens disent TVA Poubelle.
TVA Poubelle. Le pire, j'avais fait un post, c'est exactement ce que j'avais marqué, OK? Mais le point, c'est que ça fait longtemps que je l'avais envoyé à ma grand-mère, parce que je savais que ma grand-mère allait me gosser là-dessus, puis je trouvais ça drôle, mais j'avais envoyé, puis c'était genre. une femme est décédée en prenant de la protéine en poudre. C'est un titre. Là.
Genre, c'est quand même titre. Très bon.
Le imagine-toi les personnes qui ne savent pas c'est quoi de la protéine en poudre. Tout le monde pense que c'est des stéroïdes à cause d'une étude comme ça. Tout le monde pense que ça va tuer tout le monde. Puis là, personne ne va prendre ça. Tu vas prendre de la protéine en poudre. Puis tout le monde va dire qu'est-ce que tu fais, man? T'es un malade, tu vas crever. Mais genre, les gens n'ont aucune idée c'est quoi. Fait que tu sais, quand on parle de mythes, là, vite de même, ces protéines, j'en entends. En trois, là. Les reins, la protéine en poudre, puis les femmes qui ont peur de devenir trop musclées. Et puis, je veux pas m'éterniser là-dessus, je termine le podcast là-dessus.
Ah, je trouve ça bon.
Les reins, qui toutes les études, genre, démontrent, puis là, j'ai pas sorti d'études, mais je pourrais le faire, OK? Toutes les études démontrent que la majorité des personnes en bonne santé qui ont un régime riche en protéines, je dirais même avec très riche en protéines, genre le 4,4 grammes par 2 grammes par livre de poids corporel, il n'y a pas de risque significatif ces reins. Puis même qu'il y avait une étude qui démontrait que même si tu as des problématiques, genre insuffisance rénale, des choses comme ça, c'est débattable les études face aux protéines. Mmh. Fait que genre, à moins que tu aies une énorme problématique au niveau des reins, comme ton corps est capable de...
En fait, c'est pas compliqué. Ça, si tu bois zéro eau, 3 liqueurs, tu te prends 6 bières avec 10 porte-tarte licorne par jour, puis là, après ça, t'arrives, tu te loads de protéines, one shot en un repas, tu te prends un bac de 12 scoops de protéines, one shot.
Ben c'est peu, ça, là, c'est tu cours après. Elle, là, ce qu'elle a fait, la fille qui a crevé, à la place de prendre un scoop et de le mettre dans un shaker,
elle a pris 25.
Elle, non, elle a ouvert le pot, puis elle a mis de l'eau dedans, puis elle a shaké le pot, puis elle est peut-être morte de tout
ça. Ben, c'est comme le mythe de la créatine. T'sais. Il y a, mettons, on va dire, t'sais, Tommy. Tommy va à l'entraînement, se prend une scoop de 5 grammes de créatine, l'équivalent de 2 steaks. Et là, Tommy prend sa créatine, voit un gain musculaire. Toutes les études ont démontré que Tommy va continuer à avoir des gains musculaires et qu'il est sur la bonne voie pour continuer sa progression. Et il y a Johnny. Johnny a pris de la créatine 5 grammes une journée. Là, Johnny a pris de la masse hier. Là. Il était content. Là. Il a le muscle plein d'eau. Fait que Johnny a pris 40 grammes le lendemain. Là, là Johnny a fait pipi puis c'était pas le fun. Là. Mais Johnny s'est dit, je prends de la masse. Fait qu'il a pris 400 grammes one shot. Si Johnny est mort. Ouais,
puis la créatine, tu sais, en tout cas.
Hey, ouais, c'est ça. Là, premier... Après ça, TVA. Ouais. TV, ça. On a sorti un gros article. Hey, c'est dangereux.
C'est n'importe quoi. C'est n'importe anyway, quoi. Les reins, il n'y a pas rien de problématique. À moins que tu en aies. Puis, tu sais, honnêtement, on s'entend. Puis, je le dis, je le répète, c'est super important. Mais si tu as une problématique, genre tu fais de l'insuffisance rénale, ou bien si jamais ton but, tu veux prendre de la protéine, va consulter ton médecin et ne consulte pas la tête. Ça va être la meilleure façon de le savoir. Ouais. Je ne dis pas de dire à tout le monde prendre de la protéine en poudre. C'est zéro ça que je t'apprête à dire. Ça peut être super utile dans un processus. Tu n'es vraiment pas obligé d'en prendre pour réussir un processus, mais c'est pas dangereux. Puis, by the way, ce n'est pas juste sur la protéine en poudre que je parle sur les reins, mais par rapport à n'importe quelle protéine.
Ouais.
Deuxième, justement, protéine en poudre. OK? Juste pour démystifier ce mythe-là, là, de la protéine en poudre. Il y a différentes sortes, là, je ne vais pas marquer là-dedans. Il y a végétal, de bœuf, il y a la whey puis l'isola de whey. La protéine qu'on voit 99% du temps, c'est les tablettes dans n'importe quel magasin de suppléments ou bien que tu vas utiliser ou que tu as déjà probablement utilisé, c'est de la protéine de petit lait. Okay? Et en gros, là, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est qu'ils prennent du fromage, ils le déshydratent, ils enlèvent le sucre, ils enlèvent le gras, ils créent une poudre, ils filtrent ça, puis ils micro-filtrent ça, puis ils mettent une saveur là-dedans, puis c'est exactement ce que tu bois. Fait, tu manges du fromage, mais du fromage protéiné à 100%, un peu sans sucre, sans gras. La différence, c'est que la whey est filtrée, l'isolate est micro-filtrée, t'as plus de sucre, t'as plus de gras dans l'isolate, elle est plus protéinée, habituellement, c'est 27 grammes de protéines par scoop, puis la whey, tu vas avoir peut-être un 23 grammes, avec un petit peu de sucre et de gras. Mais à base, c'est du fromage. Fait que quelqu'un qui mange du fromage, puis qui check son enfant, ou j'ai enfant, là, mais qui check quelqu'un prendre de la protéine en poudre, puis qui est comme, il est dopé, ben t'as aucune idée ce que t'as aucune idée ce qu'il y a dans une protéine en poudre, parce qu'à base, c'est juste ça.
En fait, je pense que c'est juste l'effet poudre. Les gens ont peur de ça.
C'est la poudre.
Mais encore une fois, ils viennent de se dégommer 6 bières, 2 pizzas avec 3 pop-tarts licorne. Je pense qu'on va les entendre, des pop-tarts licorne, très souvent.
Donc, la protéine en poudre, c'est pas dangereux. Je dis pas que tout le monde devrait en prendre. Allez consulter la personne qu'il faut. Mais ça peut être super utile. Et arrêtez de penser que la protéine en poudre, c'est un stéroïde. C'est zéro le cas. Puis arrêtez de penser que c'est dangereux. Ça ne l'est pas. Okay?
C'est extrêmement pratique des fois dans un processus. Puis, tu sais, comme tantôt, on avait le podcast. Fait que littéralement, j'avais une collation à prendre. J'étais allé me faire un shake de protéines très rapide juste pour combler les besoins en protéines. That's it. J'ai pas le temps de manger un steak là.
C'est ça. C'est le voilà. Et le dernier mythe, ça prend 30 secondes, mais c'est les femmes qui ont peur de devenir trop musclées. Arrêtez d'avoir peur de devenir trop musclées. Okay, je vais donner mon exemple, c'est un exemple drôle, mais ça fait genre, là j'ai 29, okay, je m'entraîne depuis j'ai genre 16 ans. Puis quand je dis entraîne, on va dire depuis 20 ans. Depuis l'âge de 20 ans, je m'entraîne sérieusement. Depuis l'âge de 20 ans, je fais pas juste de m'entraîner, j'ai 29, ça fait 9 ans. Je m'entraîne sérieusement 5-6 fois par semaine, toutes les semaines. J'ai rarement raté des semaines, sauf exception. Je me supplémente. Je dors toujours, pratiquement toujours mon 8 heures. Je mange toujours l'apport calorique, ou du moins, tu sais, je mange l'apport en protéines que j'ai de besoin. J'ai souvent mangé en surplus calorique pratiquement toute ma vie. Ou j'ai pas, non, c'est pas vrai. Je croyais que j'étais en surplus calorique, mais je mangeais beaucoup de calories, genre du 3000, 3500, 4000 calories facilement. Et aujourd'hui, je pèse 170 livres et je suis pas Hulk. Fait que genre, quand les femmes souvent viennent nous voir, puis c'est comme, ah non, moi, je veux pas faire de musculation, puis là, je veux pas trop de protéines, je veux pas devenir Hulk. Tu deviens... Puis en plus, je suis un homme, donc je sécrète encore plus 6 à 7 fois plus de testostérone. Fait que genre, arrêtez de croire que vous allez développer trop de muscle en prenant des protéines. La seule affaire que ça va faire, ça va éviter que vous ayez des carences nutritionnelles, vous allez être plus en santé, vous allez avoir un effet rassasiant, vous allez tonifier un petit peu, vous allez dire « Wow, je me trouve bien plus belle, bien plus forte, moins de chances de blessure. » Il y a juste des bienfaits à manger plus de protéines jusqu'à un certain point, on s'entend. Mais les trois mythes, là, je viens d'en parler parce que c'est fou comment on les entend, mais il faut absolument démystifier ça puis changer notre game. La science a évolué, l'être humain aussi, il est temps que le monde évolue aussi là-dessus.
Ben absolument. Puis tu sais, malheureusement, le système de santé dans lequel on est, il nous pousse. Ben, en tout cas, on le voit qu'on s'en va de plus en plus vers la maladie, le surpoids, les problèmes rénaux, justement, puis la quitte, mais on ne sait pas vraiment les vraies raisons. On pointe du doigt des vieilles études des années 50 qui n'ont jamais évolué, puis tout. C'est con, mais après ça, on finira ça. Mais le cholestérol, tu sais, c'est quoi ces études-là qui ont sorti dans les années 70, qui ont commencé à démoniser le cholestérol? Puis là, ils ont commencé à démoniser tous les gras, puis tous les produits pleins de sucre qui ont commencé à sortir. Puis c'est fou, quoi.
Tu viens de me faire penser à quelque chose. C'est facile, parce que l'affaire, c'est qu'on dirait qu'au niveau de la santé, du corps humain, peu importe comment qu'on. Mettons la santé, là. On veut toujours trouver un coupable. Puis là, le coupable, là, c'est pas les protéines, mais il faut qu'il y ait un coupable. Fait que le coupable, ou bien mettons, c'est pas les glucides, parce que là, clairement, hier, j'ai démystifié le mythe sur les glucides. Là. Mais mettons qu'on sait que c'est pas les glucides. Avant, c'était les lipides, le coupable. Quand on a su que c'était pas les lipides, ça a devenu qui? Les glucides. Là, maintenant, on sait que les glucides, c'est pas le coupable. C'est qui? Les protéines. Dans 2 ans, les gens vont réaliser, ou là, j'espère, après avoir écouté le podcast, j'espère clairement que vous allez comprendre que c'est pas les protéines. Donc, il n'y a pas de coupable. Le point, c'est toujours de dire, il n'y en a pas un qui va faire une grosse différence. C'est ton mode de vie en général, la constance que tu vas avoir. C'est sûr, si tu manges 2000 grammes de protéines par jour, si tu vas avoir des problématiques, mais personne ne va être capable de faire ça. Puis personne ne va être capable de maintenir ça. Fait qu'il faut arrêter de trouver un coupable, puis juste comprendre que l'alimentation, c'est un tout. Les protéines, c'est important. On fera un live sur les lipides puis les glucides pour dire à quel point c'est important. Je pense que les protéines, c'est la base, parce qu'on l'a dit pourquoi, vous comprenez le concept. Mais arrêtez de trouver un coupable et de dire que c'est en raison de ça. Et c'est multifactoriel, il y a mille et une raisons. Il faut juste avoir un mode de vie qui est ça.
Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi.
Ça close-tu?
Oui, ça close absolument. Sujet, très bon sujet.
Merci, gang. Merci de votre écoute. Puis on se retrouve dans un autre podcast. Je le rappelle, s'il vous plaît, si vous avez aimé, laissez un beau 5 étoiles. On va être probablement Spotify, iTunes, YouTube et Google Podcast. Laissez un commentaire si jamais vous avez des questions, des choses, des commentaires positifs. Laissez-le, s'il vous plaît. Ça nous permet juste d'améliorer notre concept. Nous, on le fait par passion. Je pense que vous le voyez de la façon qu'on parle. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. On est deux grands passionnés. Fait que plus qu'on peut donner de contenu gratuitement à nos auditeurs, s'il vous plaît, la seule affaire, laissez un petit pouce avec des 5 étoiles. Puis c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Partagez. Ça fait le tour?
Oui, ça fait le tour. Merci, Sam. Merci, gang.
Merci.